Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec le podcast de la rédaction. Aujourd'hui, podcast 137 et forcément, premier mercredi du mois équivaut au bilan du mois précédent. Nous allons donc revenir sur toute l'actualité bouillante du mois de mars 2010 qui a été complètement célesto-cosmique. Nous allons au passage libérer notre haine, comme le dit si justement Eugène Saccomano lorsqu'il parle du sponsor de l'Olympique Lyonnais. Et pour cela, eh bien évidemment, la fine équipe est au rendez-vous, mais surtout, vous le savez désormais, c'est une nouvelle tradition. Nous avons un invité exceptionnel et aujourd'hui, il s'agit de Anne Fan. Comment ça va, Anne ?
Très bien. Et vous ?
Eh ben,
Très bien.
Nous, ça va au top. On est heureux de t'accueillir. D'ailleurs, tu es le big boss, on peut le dire.
Oui, on peut dire ça. Mais bon.
De deux sites qui marchent particulièrement bien. Le tout premier qui a été créé en 2005. Il s'agit du Journal du Geek.
Tout à fait.
Alors, Journal du Geek, on y retrouve quoi à peu près ?
En fait, c'est toute l'actualité high-tech du moment. Donc, on essaie de coller un peu à l'actualité et de suivre tout ce qui peut nous passionner dans ce fabuleux monde. Qu'est le high-tech.
Donc là, tu t'apprêtes à voir déferler la vague de l'iPad qui va arriver.
Effectivement, l'iPad arrive vendredi ou samedi en fonction des endroits, je suppose. Et ça, aux États-Unis, hein, plus particulièrement. Et donc, je sais que beaucoup en France ont déjà essayé de le commander. Et ça devrait, on devra voir les premiers tests dans pas longtemps.
Très bien, donc on pourra aller voir sur le Journal du Geek un petit peu ce que tu en penses. Et puis il y a aussi le petit frère hein, qui a été créé en 2006. Lui, ça parle de jeux vidéo, c'est le Journal du Gamer.
Exactement, donc c'est tout simple. Pour moi, la définition du geek à la base, c'était high-tech, jeux vidéo, manga, cinéma, etc. Mm-hmm. Et puis bon, j'ai vu que faire une sorte de melting pot dans un seul et même site, ça ne marchait pas. Donc c'est pour ça que j'ai créé une annexe qui était le Journal du Gamer, donc pour parler que de jeux vidéo, parce que j'aime ça.
Tu vas pouvoir nous le prouver aujourd'hui puisqu'effectivement vous le savez dans les podcasts de bilan on reviendra bien sûr sur les news qui vous ont interpellé le plus pendant le mois de mars, les fameux best-of. On parlera de l'homme du mois, nos coups de cœur, nos coups de gueule, les tests. Et alors là, au mois de mars 2010, ça a été l'avalanche.
Alors, c'est pas ennuyé, c'est sûr.
Oh là là, il y a une flopée de titres, ouais. Et donc on va revenir rapidement dessus sur les titres dont vous pourrez retrouver bien évidemment l'intégralité des tests en écrit, mais aussi pour certains en vidéo sur gameblog.fr. Et puis les news marquantes. Et vous allez voir qu'une fois de plus, entre les annonces de nouvelles consoles, entre les sorties de nouvelles consoles, entre les rumeurs et les grands clashs, eh ben il s'est passé pas mal de choses. Un mois de mars 2010 stratosphérique. Et d'ailleurs, plein de bonnes nouvelles. On commence direct avec les petites informations de Gameblog, puisque on est très heureux de vous annoncer le lancement de Gameblog Mobile, une version allégée pour tous les téléphones, en tout cas ceux qui surfent en 3G ou en Wi-Fi, l'occasion comme ça de pouvoir découvrir Gameblog, mais de manière un petit peu plus light en termes de poids chargé, et donc plus rapide, plus efficace, plus perspicace. Envoyez-nous vos retours. Est-ce que tout le monde l'a ici ? Est-ce que tout le monde a équipé son iPhone et compagnie de la Gameblog Mobile ?
Ah bah bien sûr, mais de toute façon, quand tu te connectes sur le site avec un iPhone à la base, mm-hmm. t'es tout de suite sur la version mobile, ce qui t'empêche pas d'accéder à la version normale du site, si jamais tu préfères te continuer tout le chargement, on sait mm-hmm. jamais. Hein. Mais donc c'est automatique, il y a certaines personnes qui l'ont vu avant qu'on dise l'avoir lancé. Puisqu'effectivement, on l'a lancé un peu en sous-marin, mais bon, voilà.
Il y a des petites choses qui vont être changées encore, améliorées. N'hésitez pas à nous envoyer votre feedback, mais en tout cas, utilisez-le. Et pour ceux qui ont un iPhone, en tout cas, il suffit de cliquer sur la petite croix, le plus, et le mettre sur sa page d'accueil. Et comme ça, tac, vous aurez le petit logo, la petite vignette, la croix de Gameblog, qui sera désormais avec vous au quotidien. Et ça, c'est un vrai sacerdoce. Et puis, dans la foulée de Gameblog Mobile, eh bien, l'arrivée des nouveaux forums aussi. Eux aussi, tout nouveau, custom, incroyable, plus rapide, mieux foutu. Il y a encore pas mal de petites choses à faire, mais en tout cas preuve que les choses avancent. Et puis surtout, il y a plein de nouvelles options de suivi des posts, de la manière de pouvoir s'exprimer, de la mise en page, etc.
Qui vont les PM aussi qui sont organisés par conversation, c'est quand même pratique.
Et puis bientôt il y aura aussi des histoires de Facebook Connect et tout qui vont arriver,
ouais.
Donc voilà, c'est en cours, c'est en route. Gameblog évolue quotidiennement, j'ai envie de dire presque en ce moment. Et puis autre information, là c'est pas directement à Gameblog, mais en tout cas ça nous fait vraiment plaisir, c'est IG Mag qui fête son premier anniversaire avec ce numéro 7 et une très belle couverture hein, dessinée par Arc System Works, les créateurs de BlazBlue, avec comme d'hab une compilation des meilleurs tests du moment, des articles de fond, des dossiers, des interviews. Nous on kiffe bien en tout cas, donc
oui, et puis c'est déjà bien dans ces temps un peu difficiles pour le papier, n'est-ce pas, d'arriver à un an, et j'en connais d'autres qui n'ont pas fait plus de 6 mois.
je ne veux pas dire
Donc bravo à eux.
Voilà. Précise ta pensée.
Non.
Effectivement, et puis il se pourrait bien que dans les mois à venir, il y a des petites choses qui puissent vous intéresser si IGMAG, vous n'avez pas eu encore l'occasion de peut-être encore de le lire ou de le découvrir. Restez fidèles sur Gameblog, vous verrez, il y a des petites choses qui vont arriver. Allez, on va passer au best-of, c'est-à-dire, vous le savez, tous les samedis, on vous donne la possibilité, dans la zone best-of, d'élire la news qui vous a le plus marqué chaque semaine. Eh bien, vous avez élu 4 news. La première, il s'agit de l'annonce de la Nintendo 3DS, sur laquelle, forcément, on va revenir dans ce podcast un peu plus en profondeur, parce qu'il y a eu pas mal de choses.
Joli, finalement. En profondeur et tout, joli.
Mais attends, qu'est-ce que c'est, c'est un métier, hein. Il y a effectivement pas mal de choses à dire entre l'annonce un peu précipitée de Nintendo, le pourquoi du comment, la chance aussi qu'on a avec Akihabara News, hein, avec nos amis qui ont pu tester un écran Sharp qui devrait potentiellement être celui qui sera adapté à la Nintendo 3DS, comme ça pouvoir vous en dire un petit peu plus sur les premiers ressentis. Autre news marquante, la sortie de Final Fantasy XIII qui a remporté énormément de voix, visiblement en tout cas ça vous a particulièrement plu, ou en tout cas c'était attendu, et puis on l'a vu, hein, beaucoup de tests dans la communauté, hein, dans la zone communauté et blog sur Final Fantasy XIII, et puis énormément de monde sur les Champs-Élysées pour le lancement.
Alors oui, il y a eu des débats, des scandales et des altercations, à savoir, est-ce que la soirée était réussie ou pas ? Est-ce qu'elle s'est bien passée ou pas ? Bah, ce qui est sûr en tout cas, puisqu'on y était, hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même repartis avec le sourire, repartis avec leur jeu, et qui ont découvert la FNAC en l'occurrence, là, relookée aux couleurs de Final Fantasy, avec un orchestre, avec malheureusement effectivement les développeurs qui sont passés faire une séance de dédicace un peu trop courte, il est vrai, un service de sécurité particulièrement ferme, il est vrai, mais néanmoins, c'est vrai que quand on a quasiment 3500, 4000 personnes qui sont arrivées, c'est quasiment du jamais vu, hein. Modern Warfare 2 qui avait fait un lancement au même lieu, il y avait 1500, 2000 personnes, là c'était le double, donc c'était vraiment, ils ne s'y attendaient pas, donc c'est vrai que ça a créé un peu un petit micmac. Mais bon, en tout cas visiblement, Final Fantasy XIII, jeu très attendu, d'ailleurs vous l'avez placé directement au sommet des ventes. 13, oh Julo, je le dis parce que, mais je ne te la vole pas, Julo qui disait 13 attendu.
Non, c'est toi qui l'a dit, justement, il a repris ce que tu venais de dire.
D'accord, je fais des blagues inconscientes, tu vois, c'est un nouveau degré.
Blagues d'inconscient.
Oui, c'est ça aussi, mais en tout cas, il a été placé dès sa première semaine de vente comme le jeu qui s'est le mieux vendu en France depuis le début d'année, c'est-à-dire qu'en une semaine, il a fait mieux que des jeux qui étaient là depuis 3 mois, donc c'est quand même assez significatif. Autre news que vous avez placé en tête. Alors ça, c'était le 1er mars 2010, c'était à la fin, au début du mois dernier, c'était la PS3 qui avait envie de nous faire un remake du bug de l'an 2000, mais 1er mars 2010, bug mondial, bien évidemment, ça a créé énormément d'émoi. Est-ce que tu as rencontré le bug, toi, Anne ?
Ben non, justement, non. Heureusement, j'ai pas allumé la console, ça. Je devais commencer à y jouer à Heavy Rain, et pour je sais plus quelle raison, j'ai pas pu y jouer, donc du coup, j'ai passé le bug, mais ça m'a fait rire, parce que bon, tout ça, c'est qu'une année de... C'est un problème lié à une année bisextile,
c'est quand même fou, quoi.
Ça, ce sont des ingénieurs qui je ne sais pas combien d'années d'expérience, des diplômes à plus savoir qu'en faire, et pourtant ils l'ont fait.
Elle lit le Blu-ray, elle fait de la haute définition, mais le 29 février
c'est pas
elle
se prend dans la gueule,
elle connaît pas.
Ça c'est quand même effectivement un peu surprenant, d'autant qu'ils étaient prévenus, parce que la technologie qui leur sert de petite horloge interne est utilisée sur d'autres appareils qui avaient connu le bug, ou en tout cas où les ingénieurs avaient prévenu en disant il risque d'avoir le bug, etc. Il n'y a pas eu de patch, rien.
Non.
À la fois, je sais pas ce que vous en pensez quand même globalement, mais ça a été beaucoup de bruit pour rien.
Ah bah
parce
oui,
que dès
oui
le
plus
lendemain,
de peur que de mal.
C'était revenu à la normale, et surtout, bah, hormis malheureusement quelques rares, très rares exceptions, personne n'a rien perdu, ni trophée, ni jeu, ni voilà. Donc malheureusement,
on verra dans 4 ans.
Bah, c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a quand même eu aucun patch ni rien. Donc des années.
Mais
ils le
régleront au milieu d'une autre mise à jour.
Mise à jour,
apparemment, il y a un petit problème.
Ils oublieront
quand même. Oui, peut-être. On verra. On s'en souviendra dans 4 ans.
Imagine, ouais, le prochain 28 février, bim, ça recommence. Ah bah super. Enfin bon, c'était
le désormais traditionnel bug.
C'est ça.
29 février.
Ça a été un gros pataquès, et c'est impressionnant aussi quand même de voir à quel point ça a été repris par des grands médias nationaux. Hein, on le voyait sur TF1, sur iTélé, sur LCI, tout le monde en a parlé.
Simplement parce que ça nuit quand même l'image de Sony PlayStation.
Oui,
ça,
c'est vrai
que là-dessus, ça, c'est le genre de bug, ça, on n'y pense même pas. Ça.
Non.
Encore que ça plante totalement, je sais pas, où il y a un truc qui fait quelque chose, mais là, même pas, c'est juste le passage de date. Le truc qu'on a prévu il y a 10 ans. Quoi, ça.
Le pire, c'est que Sony n'a pas réagi très très vite, en fait. Ils ont mis un petit bout de temps à comprendre que c'était vraiment lié au problème de l'horloge, quoi.
Non, je pense qu'ils le savaient dès le départ, mais qu'ils savaient pas comment communiquer.
Oui, mais justement, là, pourquoi ils ont attendu aussi longtemps avant de dire que c'était vraiment ça?
En plus, c'est même pas seulement l'attente, c'est ce qu'ils ont dit en fait. C'est non, on va rien faire pour l'instant.
Oh, oui, exactement.
On verra demain.
On sait pas trop.
On verra d'ici 24 heures. Donc forcément, ils savaient que c'était ça.
Parce qu'au final, ils l'ont quand même résolu par l'abstinence.
C'est ça.
Sans réagir. Donc bon.
Peut-être que l'abstinence résout bien des choses finalement.
Bah écoute, je sais pas.
Oh là là,
il y avait-il un message sous-jacent là-dessus?
Je ne me permettrai pas de commenter. Et puis la dernière news, la dernière info que vous avez sélectionnée dans votre best-of, et ça nous fait plaisir, merci de votre soutien, c'est l'entrée de Gameblog comme 5e site de jeux vidéo généraliste en France. Merci beaucoup à tous, en tout cas, puisque c'est grâce à vous. Alors, ce n'est très honnêtement que le début de l'aventure, hein. Il y a encore énormément de chemin à faire.
On vise le -2 par là.
Ouais. Bravo.
Non mais bah, c'est gentil, mais c'est vrai que c'est encore une. Il y a encore beaucoup de chemin. Les sites qui sont au-dessus sont bien au-dessus. Mmh. Il faut pas se cacher. Quand même. et puis c'est une économie, l'économie d'Internet qui est une économie.
D'un côté, il faut se dire que les sites qui sont en dessous sont bien en dessous aussi.
C'est vrai.
Tant qu'à faire.
C'est vrai.
Ouais, on
j'adore ce garçon.
Non mais finalement, du coup, on se retrouve seul au monde. Il y a personne devant et ceux trop loin, on les voit pas, et ceux derrière, on les voit plus.
C'est ça.
C'est ça. Hey, oh.
C'est pas Mario Kart, hein.
Enfin, c'est sûr. Et là-dessus, je dirais, on sent seul au monde.
Un ange passe.
Non, cinquième, merci beaucoup. Cinquième place pour Gameblog. Il reste une fois de plus beaucoup de choses à faire. Et puis, vous le voyez au quotidien, on essaye, on fait tout, en tout cas, pour que le site soit vivant avec l'arrivée de nouvelles rubriques qui sont parfois accueillies bien ou moins bien. Mais n'oubliez pas une chose essentielle, c'est déjà la diplomatie dans vos propos.
La courtoisie.
La courtoisie. On peut être d'accord, pas d'accord, aimer, ne pas aimer et rester respectueux, ne pas fracasser les gens alors qu'ils n'ont rien montré encore, puisque c'est une introduction.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils montreront tout.
Voilà, on pense en l'occurrence là à Salomé avec sa nouvelle chronique qui arrivera tous les jeudis. Une fille qui aime les beats. Donc bon, vous en découvrirez bien évidemment beaucoup plus dans les semaines à venir, mais il faut, comme disait quelqu'un qu'on connaît bien, laisser sa chance au produit parfois.
Salomé est un produit, d'accord.
non mais toujours, mais tu te sers mais, avec tout ça.
Mais moi je propose que Salomé vienne un jour dans un podcast répondre aux internautes.
Exactement.
Voilà. Alors question éventuelle.
Tout à fait.
Pourquoi pas.
Eh bien écoute, monsieur Nini, j'en prends date et je le note. Voilà. Un podcast avec Salomé, effectivement, et peut-être même qu'on le fera en webcam. sur Chatroulette. allez, on enchaîne avec la section de l'homme du mois, qui parfois est la femme du mois. Mais cette fois-ci, c'est un homme. Et un homme dont on a déjà parlé à moult reprises sur Gameblog. C'est un peu notre ami analyste préféré, #1, monsieur Michael Pachter. Alors Michael Pachter a cette particularité, c'est qu'il adore faire des bonnes vannes, dire des phrases percutantes et surtout remuer la merde parfois, il faut bien le dire. Et il a maintenant un show sur G4. Sur Game Trailers, pardon.
Pach Attack.
Exactement, Pach Attack. Et du coup, il se lâche maintenant de manière hebdomadaire. Et donc là, il a lancé des choses. Première chose, il a dit « La PSP va droit dans le mur ». Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Réaction collégiale. Anne, est-ce que tu as une PSP déjà?
J'ai une PSP. J'ai même une PSP Go. C'est pour dire. Si, quand même.
Est-ce que tu la jettes contre un mur ou est-ce que tu penses qu'elle va droit dans le mur?
Non, parce que j'aime bien les objets collector. Donc,
les choses rares, quoi.
Voilà, donc je préfère les garder et tout. Et peut-être qu'un jour, ça vaudra quelque chose. Hein.
Bah, ce que reproche Pachter, globalement, c'est de dire que Sony a raté un petit peu ce que Nintendo a très bien réussi. C'est-à-dire en étant vraiment sur la cible des joueurs un peu gamers, un peu adultes. Ça veut dire avec du GTA, des Monster Hunter, etc. Qui marchent néanmoins bien. Mais pas aussi fort que des jeux peut-être un peu plus pour les enfants ou un peu plus casual ou en tout cas sur une cible un peu plus ouverte, un peu plus large, et que du coup ça la met dans un étau et que du coup elle va droit dans le mur, qu'elle n'arrivera pas à s'ouvrir, chose qu'a réussi à merveille, il est vrai, la Nintendo DS. Qu'est-ce que t'en penses?
Ah bah, moi je suis tout à fait d'accord, ça, c'est vrai qu'un jeu portable on n'y joue pas de la même manière, ça, et ça la DS l'a tout à fait, ça, Nintendo l'a vraiment bien compris. On joue un jeu rapidement dans le métro et tout ça, donc faut pas qu'on se prenne la tête à se dire non, là je peux pas sortir du métro parce que faut que je sauvegarde avant ou je peux pas arrêter ma console. Donc c'est le gros problème des jeux PSP, puisqu'on a surtout l'impression que c'est des conversions de jeux de salon. Voilà, tandis que la DS a bien compris que c'était des jeux dédiés à la portabilité, etc. Et d'ailleurs on parle de console portable, mais l'iPhone, l'iPod et tout ça, on l'ont compris aussi, hein. Donc c'est peut-être pour ça que ça marche aussi.
Et c'est pour ça que Pachter justement il situe la PSP non seulement derrière la DS, mais aussi derrière l'iPod. Donc,
l'iPhone,
oui, l'iPod aussi, l'iPhone, enfin les deux. Quoi. Mm-hmm.
Donc, ouais, parce lui, qu'il dit, ouais, effectivement, il dit qu'il est concurrent à la fois au niveau du jeu de la DS, ouais, et au niveau d'un produit multimédia, du, ouais, où là, il se fait battre effectivement par l'iPod, ouais, et l'iPhone. Ouais. Donc l'éternel second, un peu sur tous les fronts.
Troisième, là, du coup. Non.
Oui. Ah, mais l'iPhone est quand même encore derrière.
Ouais, ouais. Ouais, mais l'iPhone a un avantage quand même, c'est qu'elle elle vend des jeux pas très chers et puis elle avance très très vite quand même.
Eh ben, on en reparlera d'ailleurs avec toi tout à l'heure un petit peu plus loin, puisque quand on reviendra un petit peu sur les news et les coups de cœur, il y a effectivement une information sur les parts de marché de l'iPhone, et c'est assez surprenant de voir à quel point ils sont en train de grignoter un peu tout le monde. Traz, tu veux réagir?
Juste pour terminer sur la PSP, Pachter dit quand même, même si effectivement elle est derrière les deux machines citées tout à l'heure, elle sortira quand même, enfin Sony sortira quand même des PSP 4000, 5000, etc. Ils vont pas s'arrêter à cette version-là. Mm. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire après? Est-ce qu'ils vont inclure aussi la 3D comme Nintendo est en train de le faire avec la 3DS? Est-ce qu'ils vont
ou la téléphonie,
ou la téléphonie, voilà. Est-ce qu'ils vont effectivement faire un mix des deux concurrentes? On ne sait pas, mais bon.
Eh bien, écoutez, on en saura un petit peu plus dans les semaines et mois à venir, peut-être un peu plus à l'E3, hein, qui se tiendra du 15 au 17 juin prochain à Los Angeles, où bien évidemment Gameblog sera présent, hein, pour vous faire vivre l'événement de l'intérieur avec moult vidéos incroyables et puis du texte aussi, enfin plein de choses.
Du texte.
Oui. enfin plein de choses complètement dingues. Et puis on continue sur Pachter, parce que, et là c'est une révélation, hein, il est le seul à l'avoir dit et à l'avoir vu.
Bah, c'est lui qui a mis le feu aux poudres.
Exactement, avec Electronic Arts qui sera en train de préparer l'évolution des DLC, mais en fait c'est des rétro DLC, puisque c'est des DLC qui viendraient avant la sortie du jeu, puisqu'il s'agirait de démos premium payantes. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs?
C'est mon coup de gueule du mois, moi, en tout cas.
J'attends de voir. Honnêtement, j'y crois pas trop, mais bon, pourquoi pas? Parce que déjà le principe du DLC payant, bon, ça peut être sympa. Maintenant, en plus, on me fait payer sur un jeu que j'ai pas encore. Ouais. Ouais.
Alors, eux, la manière dont Electronic Arts l'explique, c'est qu'ils disent, en gros, au lieu d'avoir une démo qui dure un quart d'heure, une demi-heure, là, vous aurez 2-3 heures de jeu. Et si, bah, en gros, il n'y a pas trop de soutien de la communauté, s'il y a des critiques qui sont émises, ça nous laissera le temps d'améliorer la version finale. Est-ce que vous pensez à ce genre de... que c'est possible, ce genre de choses?
Bah, vous imaginez, ça. C'est comme si une série t'intéresse super bien... toi, elle t'intéresse, mais la majorité, ça n'intéresse personne d'autre. Mmh. Donc, tu vas te retrouver accro à un jeu qui finalement n'aura pas de soutien. Et ça, je trouve bête de perdre 3 heures à commencer un jeu
et qui n'est même pas sûr de sortir en plus. Au final. Parce qu'effectivement, il y a des retours décevants. S'il y a des retours décevants, Electronic Arts peut très bien décider, bah finalement, non, ça ne les intéresse pas. Je sais pas, il y a peut-être eu 100 000 personnes qui ont acheté le jeu dans le monde. À 10 ou 15 euros, bah, il sortira pas, tant pis pour eux, ils verront jamais la suite.
Oui, t'as raison de le souligner quand même, 10-15 euros, c'est le prix, la fourchette qui a été évoquée. C'est quand même pas négligeable.
C'est pas rien.
On fait le tour de cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, en fait. Quand on en parle un petit peu maintenant, plus en profondeur.
Ben, on est dedans.
Alors, parce que, effectivement, t'as un double discours. Donc, d'une part, Electronic Arts qui dit, un, ça va nous permettre éventuellement de corriger le tir sur un jeu, sur certains trucs. Deux, ça permettra d'avoir un petit peu d'argent pour alléger les coûts de production du jeu en question à 10-15 euros, sous-entendu si la démo fonctionne, évidemment. Donc à la limite, pourquoi pas. Il y en a même qui oseraient considérer que ça pourrait faire baisser le prix des jeux. Je pense qu'ils rêvent, mais au-delà de ça, comme le disaient Traz et Anne, il y a un problème de public. C'est que si tu pars de ce principe là et que, c'est-à-dire, ça joue le rôle d'outil de pré-marketing pour savoir si on va vraiment sortir le jeu ou pas. Imagine si Dead Space, Mirror's Edge, ce genre de jeux là qui n'ont pas fonctionné vraiment, mais qui ont trouvé un certain public qui le voulait et qui en veulent encore, peut-être qu'on les aurait jamais eu. Donc ça devient une logique qui est un petit peu à contre-courant de la multiplication des publics et de l'offre correspondante.
Julo.
Le cimetière des jeux vidéo serait rempli de Shenmue, en fait. Voilà. Ça donnerait ça.
Mais du coup,
sauf que la démo de Shenmue,
3, 4,
la démo de Shenmue aurait coûté 30 euros et pas 15.
Non, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Très bien. Alors justement, on en profite, hein, dans ce podcast. Est-ce que tu es fier de ton poisson d'avril? Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, la sortie officielle de Shenmue 3 sur Xbox 360, bravo.
Ouais, mais
bravo, monsieur.
En fait, c'est marrant, c'était la moitié des gens qui étaient outrés parce que c'était complètement évident,
ouais,
ou complètement pourri comme poisson, quoi.
Ouais.
Et puis téléphoné, ouais, faxé même. Et l'autre moitié, finalement, qui m'en voulait aussi parce qu'ils y ont cru 3 secondes.
Mais t'as tout perdu, quoi. T'as jamais dû écrire ça.
Par contre, moi, je me suis bien amusé à écrire les morceaux du communiqué, en fait. Voilà. Mmh. Donc, je suis assez content.
Et est-ce que, du coup, on aura un dossier Shenmue pour se faire pardonner? Tu sais, le fameux, là, de décembre 2009, là.
Alors, l'autre truc étonnant, c'est que dans les commentaires, je crois qu'il y a une ou deux personnes qui en ont profité pour me dire au lieu de faire des conneries, tu pourrais, tu pourrais écrire ton dossier.
Alors là, publiquement, nous sommes là devant les auditeurs. Est-ce que tu t'y engages?
Oui, je me suis
à quelle échéance? Non, parce que voilà les fans de Shenmue, ils sont là à attendre des trucs, mais nous on attend le dossier.
Je voudrais juste expliquer que c'est une sorte de deuil en fait pour moi, ouais. Et donc j'ai du mal à franchir le cap.
Oui, parce qu'une fois que c'est fait, ça y est, c'est sûr, tu l'enterres.
Voilà, c'est ça.
Mais moi je suis sûr qu'il va revenir hein, Shenmue.
C'est vrai, et peut-être le jour où j'aurai fait le deuil, tu vois.
Et là on ressortira la news, on vous l'avait dit.
Exactement,
on vous
l'avait dit. Voilà.
Bon, bref, je me suis un peu avancé, n'empêche, le contrôle natal et tout ça, c'était pas très crédible.
Pourtant. On verra bien, on verra bien. Allez, on va passer au coup de cœur, coup de gueule de la rédaction.
Casse-toi, Poufi.
Je me suis dit, Poufi est en train de. Et donc, contrairement à ceux qui auraient pu, voilà, de flasher Traz à mort.
Parce que oui, ceux qui, une fois de plus, seraient arrivés que le 1er avril, non, Poufi va bien, Poufi est avec nous, il n'y a pas de souci. On est juste complètement débiles sur nos poissons d'avril. Voilà, allez, on va continuer avec toi, Julo, puisque globalement, ton coup de cœur, c'est l'une des annonces essentielles du mois de mars, c'est l'arrivée de la Nintendo 3DS.
Ouais, alors est-ce que c'est un coup de cœur pour la 3DS ou un coup de gueule pour la DSi et la DSi
XL? Ah bah non, ça c'est ton coup de cœur.
Non, mais voilà, c'est la question. Enfin, voilà. Moi je suis très content, je suis très excité par cette nouvelle console, bien qu'on ait rien vu encore, hein, mais voilà. Enfin, à part effectivement cet écran Sharp qui pourrait être celui de la DS.
Expliquons un peu le principe, parce que c'est très différent de la 3D qu'on voit par exemple.
Alors il y a la 3D
avec
donc stéréoscopique, tu m'arrêtes si je me gourre parce que je suis tout pas aussi calé que toi. Hein. Mais c'est là, c'est ce qu'on appellerait de la 3D auto-stéréoscopique, c'est-à-dire que donc t'as pas besoin de lunettes. Et simplement avec différentes couches sur l'écran, tu crées plusieurs images, ce qui fait que ça marche assez bien, sauf que l'effet n'est pas le même, c'est pas vraiment l'image qui sort de l'écran, mais plutôt l'écran qui est profond. Mais du coup, l'un des défauts de cette techno, c'est pour ça que c'est utilisé que pour, et ça va être utilisé dans les téléphones portables, dans les appareils photo, tu pourras prendre des photos en 3D, etc. Et donc, le vrai problème, c'est que ce qui va pas en être un finalement, c'est que quand tu vas sur le côté de l'image, si tu veux être deux ou trois personnes autour de la DS, bah, ça marchera que pour celui qui est en face. Pour les autres, il y aura ce qu'on appelle des images fantômes qui vont s'intercaler et qui donc vont un peu casser l'effet 3D.
Alors justement, la chance d'avoir notre invité Anne Fan, qui est l'un des rois des geeks, le pape de la haute technologie, bah justement, toi, tu as eu l'occasion de voir des écrans un peu similaires, en tout cas des technologies
tout à fait,
qui sont
approches. Vrai, c'était pas tout à fait la même technologie, parce que là, bon, le truc, c'est vraiment, ça rappelle vraiment le système de scrolling. Donc, comme dans les jeux 2D à l'époque sur
le Parallax.
Super NES, voilà, le Parallax.
Mais ça s'appelle comme ça d'ailleurs.
Et, voilà, et d'ailleurs, la technologie s'appelle Parallax. Mais moi, j'ai du mal à y croire parce que, bon, est-ce que ça a apporté un plus? C'est la grande question que je me pose. Simplement parce que, je sais par exemple, le chinois TCL, le constructeur chinois, ils ont montré lors du CES un écran 3D sans lunettes. Eh bien, on voyait rien.
Mais c'est un grand écran ou pas?
C'est un grand écran. Ouais. Donc là, voilà.
Mais apparemment, la différence là, c'est qu'ils ont. Sharp a pris une avance technologique apparemment extraordinaire sur ses concurrents. À tous les niveaux, après
définition,
tous les aspects techniques,
etc.
Moi, je ne serais pas très balèze là-dessus. Mais, genre, pour le. Qu'on appelle ça le contraste, par exemple, il serait de 1000 pour 1 au lieu de 100 pour 1 sur les
pour
autres.
1 pour 1
voilà. Donc, alors c'est le seul truc dont je me souviens à peu près correctement parce que ça me parlait un peu, tu vois. Après, le reste, je ne sais pas trop, mais apparemment, c'est les modèles de Sharp fonctionnent vachement mieux que tout ce qui a été montré dans le genre.
Mais est-ce que, en fait, c'est toujours le même problème. C'est est-ce qu'on va pas s'habituer à une expérience avec la vraie 3D qu'on va trouver sur la PS3, sur les PC qu'on trouve déjà actuellement, et est-ce qu'on va pas se retrouver justement avec un truc un peu trop cheap parce que.
Mais à la fois, est-ce que tu crois vraiment en l'expérience 3D avec des lunettes? Est-ce que tu penses vraiment? Alors, certes, je prêche ma paroisse, mais moi, pauvre petit binoclard, porter des lunettes sur mes lunettes. Alors, un, c'est pas très pratique. Deux, ça fait mal. Trois, ça te fait mal à la tête. Parce que du coup, elles sont pas exactement centrées sur mes yeux. Elles sont un petit peu en avant, etc. Et du coup, c'est vrai qu'une technologie sans lunettes, peut-être un peu perfectible, mais qui apporte une vraie profondeur.
Tout à fait. Ça, pour moi, l'avenir de la 3D, faut qu'elle passe par le fait de pas avoir de lunettes.
C'est
rédhibitoire. Ça. Même là, on va aller acheter un écran. Tous les écrans qui vont sortir là vont être à 1500, etc. sans lunettes. Alors, ça va être à coût de 120 euros, je crois, ou une centaine d'euros pour avoir une paire de lunettes.
Ah bon, donc
ça coûte vachement cher parce qu'il y a des occlusions de chacun des verres de chaque truc et ça doit être synchronisé
et
avec
que tu prends dans les cinémas là qu'on te prête. C'est des lunettes qui valent 100 euros aussi.
Exactement.
Enfin, elles valent probablement moins cher parce qu'elles sont produites en plus grand nombre pour l'instant.
Mais sachant que
3 euros plus.
Non mais il faut douter.
Alors attention, parce qu'on a quand même la minute technique de Mr. P, qui est quand même notre codeur, qui va nous parler de masques vectorisés en PHP.
Oui, c'est juste pour préciser que dans les cinémas 3D, il y a deux technologies en fait. Il y a les technologies actives et les technologies passives. Donc les lunettes qui coûtent 100 euros, ce sont les lunettes actives qui effectivement sont synchronisées avec l'image pour fermer un œil alternativement.
Et puis
l'autre. Mais si tu as des cinémas avec des lunettes passives qui sont juste des verres polarisants avec des lunettes qui coûtent 2 euros et qui.
Oui,
et
l'effet est le même.
Beaucoup moins bon.
Même. Et c'est moins fatigant.
Non, il est moins bon.
Si, c'est exactement
non,
même. C'est meilleur bon. Avec du passif.
Ah bon ?
Oui, mais c'est beaucoup plus cher en termes d'image parce qu'il faut un projecteur qui.
À noter aussi que quand on achète une paire, par exemple pour la marque S, elle ne fonctionnera pas pour la marque L. Typiquement,
ah oui
c'est que ça marche par infrarouge ou un système de communication.
D'accord.
Et c'est, voilà, c'est propriétaire pour chacune des marques. Donc c'est pas rétro-compatible pour l'instant.
Donc t'as acheté une Samsung et puis
exactement.
La télé d'après c'est une Sony.
Bah, tu rachètes une paire de lunettes.
Tu rachètes tes lunettes.
Voilà.
Chérie, ouais, on a 7 gamins, on a acheté 7 paires de lunettes. Wouh ! Bah, on rachète deux. Hein, c'est formidable.
On recommence.
Donc ouais, c'est pas très. Honnêtement, c'est pas très au point pour l'instant.
Non, non, bah ça va être un marché de niche. De 3D, hein, ça va être comme les Blu-ray au départ. Oui. Personne ne va voir la différence.
Aujourd'hui,
voilà, et ça commence à arriver maintenant. Ouais. Ça, maintenant qu'on a des lecteurs Blu-ray à moins de 150 euros, c'est là on commence à attaquer le marché de masse. Ouais. Mais et pour la 3D, bah, ça va être justement la même chose. C'est-à-dire, tant qu'on aura lunettes, je pense que ça va pas être le gros marché non plus. Ça va rajouter une expérience. Hein. Honnêtement, voir des matchs de foot en 3D, c'est une expérience que on.
Très bien, je n'aurai donc pas besoin de 3D.
C'est bien les matchs de foot en 3D ?
Non, pour le sport, ouais. Franchement, ouais. C'est impressionnant.
Déjà, pour le prix d'une lunette, tu vas au stade. Hein. Tu vas en 3D. Hein. Et puis t'as l'ambiance et tout. Hein.
Ouais, mais là, on te gueule pas dessus. Ouais. Et t'as pas les flics qui te compressent.
Non, parce que tu vas au parc des Princes, toi. Ouais. À Marseille, tout va bien.
Tu passes
très bien
au parc des Princes.
Bah oui, y a plus personne.
C'est à huis clos tout le temps, alors bon.
Bon, on enchaîne.
Attends, mais il y a pas que ça sur la nouvelle DS.
Parce qu'il y a, la date aussi.
La date aussi.
Oui, c'est-à-dire qu'elle sortira.
Oui, oui, on sait qu'elle sortira avant la fin de l'année fiscale.
Oui, qui se termine en mars.
A priori, ouais, ça va être à la fin de l'année de cette année. A priori pour les fêtes, quoi.
Probablement.
Fin 2010 au Japon, ouais. En tout cas. Ouais.
Et non, mais alors c'est pas tout ce qu'on sait. On sait d'autres choses dessus, notamment.
Officiellement, c'est tout ce qu'on sait.
Officiellement,
dans le communiqué, il y a rien.
Ouais, mais après tous les journaux japonais qui ont révélé deux trois trucs, et notamment justement cette histoire d'écran sharp, etc. Semblait dire également deux trois autres petites choses, notamment qu'elle était que c'était un vrai nouveau hardware, donc beaucoup plus puissant. A priori, la puissance d'une Wii. Mmh. Qu'il y aurait un stick analogique, probablement des écrans un peu plus proches l'un de l'autre.
Des vibrations.
Des vibrations.
Un accéléromètre.
Voilà, donc c'est une vraie nouvelle console. Il ne faut pas la voir en fait comme une nouvelle itération de la première gamme de DS. Comme on en a vu combien maintenant, je sais pas.
4
DS, DS Lite, DSi, DSi XL.
C'était toutes des DS de trop finalement, quoi, à partir de la DS Lite, je pense. Mais là, voilà, cette fois vraiment, c'est un.
Et les écrans, a priori, seraient légèrement plus petits que ceux de la
c'est
DSi
ça,
XL.
Ouais, que de la DSi XL. Ouais.
Donc
ouais.
Ça reste quand,
reste
quand
même grand,
bien plus grand que les écrans initiaux de la DS.
Non, franchement, je pense que ça va être vraiment sympa, quoi. Donc voilà, juste
on aura l'occasion de voir ça à l'E3, puisqu'elle sera présentée en juin, là. Mm-hmm. Et nous, on sera évidemment sur place, on va se jeter dessus.
Et je pense qu'on sera les seuls.
Tu crois ?
Donc on va en chier.
Ah ouais.
Mais on va vous ramener des images de la Nintendo 3DS, c'est une certitude. On continue avec toi, Raon, justement. Toi, ton coup de cœur ce mois-ci, ça a été l'annonce, c'était aussi au cœur du mois de mars, du PS Move. Alors franchement...
Alors attends, mais oui.
Le PlayStation Arc, le Gem, etc., qui désormais a son nom, le PS Move, le PlayStation Move. Franchement, depuis des mois, depuis l'E3 quasiment... On en rigole.
Mais
hein,
c'est pour ça que je l'ai mis en fait en coup de cœur ce mois-ci. C'est que finalement, déjà, d'une part, je trouve que l'annonce qui avait été faite à la GDC était plutôt bien faite. Enfin, la conférence de presse était correcte. Et plus on commence à prendre pied là-dedans sur ce que c'est vraiment, comment ça marche, etc., plus il semblerait que ça soit finalement...
La techno la plus efficace des trois.
En termes de précision, voilà, de réponse et d'intérêt, peut-être... Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'à mesure qu'on entend des retours positifs de la part de la communauté des développeurs sur le PS Move, on a aussi des retours qui sont beaucoup plus mitigés sur Natal.
Mm-hmm. À cause de ce temps de retard et de ces désynchronisations. Là,
ouais, et alors que c'était un postulat qui était vachement plus séduisant pour nous et que l'expérience qu'on avait fait à l'E3 était très enthousiasmante. Donc,
On va avoir l'occasion de retoucher à Natal avant l'E3, hein, d'ailleurs, dans les jours à venir. D'ailleurs, on vous fera une petite vidéo, on vous fera part de nos impressions remises à jour par rapport à ce qu'on a pu découvrir à l'E3. Mais c'est vrai que de la part de la communauté des développeurs en général, les bruits de couloir qu'on a pu recueillir, c'est vrai que les deux courbes d'attente se sont croisées, paradoxalement,
en quelque sorte,
et le PS Move est monté. Il y a des informations quand même sur le PS Move, 100 dollars,
voilà, déjà
un
le
pack
prix.
Avec un jeu. Le PlayStation Move, l'EyeToy, enfin pas l'EyeToy,
le PlayStation Eye, ils appellent ça.
PlayStation Eye, oui. Et aussi le subcontrôleur.
Oui, parce qu'effectivement, c'est double maintenant, c'est comme sur une. Ça, on l'avait bien annoncé bien longtemps avant aussi. Il y a donc deux parties, comme pour la Wiimote et le Nunchuk.
Bah, c'est une Wiimote, quoi. Ouais. Sans le mais fil au milieu et avec une autre techno de reconnaissance, quoi.
Ouais.
Et, ça, et des boutons mieux répartis finalement. Ouais. Et finalement, quand tu comptes les boutons, il y a moins de boutons sur le PlayStation Move que sur la Wiimote. Mm. Et en même temps, il y en a beaucoup plus qui sont disponibles sur sous ton pouce. Mm. Donc du coup, ça va être, enfin, c'est presque mieux. Quoi.
Très honnêtement, pour l'avoir une entre les mains. Alors déjà, il y a pas de haut-parleur et tout, ce qui apporte une petite dimension supérieure sur la Wiimote. Mm. Ensuite, il y a pas de vibration. Ça, c'est un peu dommage.
Ouais.
T'es quand même, du coup, ça ne bouge pas, ça ne vibre pas, c'est dommage. Et puis, les touches, les croix, carrés, ronds, machin, etc., sont effectivement très bien disposées, mais ils sont extraordinairement petits, très secs. Ouais. Et c'est pas très agréable à la main, franchement. Mais bon, on verra surtout avec les jeux, etc. Et d'ailleurs, Sony a d'ores et déjà annoncé 20 jeux d'ici la fin d'année 2010.
Alors, dont le nouveau SOCOM, notamment.
Le
qui
nouveau
serait compatible
SOCOM,
aussi.
Un jeu de combat. Qui visuellement est assez sympathique.
Ouais, ouais, la plupart des jeux de toute façon sont grosso modo.
Et puis il y a tout un tas de jeux qui vont être remis à jour. Ouais. On parle de Little Big Planet, mm-hmm. On parle de Killzone 2.
Ça a été officialisé pour Heavy Rain aussi.
Voilà, et pour Heavy Rain, ça a été officialisé aussi, qui vont être jouables comme ça.
iPad.
iPad mm-hmm. aussi. Bah, pour iPad, c'est parfait, hein, parce que ça va régler le problème de cette carte magique toute plate qui
marche pas très bien avec la luminosité, puisque là, ça gère pas ça. Et puis en plus, avec la petite boule qui change de couleur, elle est bien détectée. Mm-hmm. Donc effectivement, sentiment qui remonte un petit peu en flèche concernant le PS Move. Et puis quelque part, c'est l'impression de jouer à la Wii, mais en HD. Ou en tout cas, peut-être que ce que va être la Wii HD, finalement. Est-ce que Sony prend pas un petit peu d'avance finalement sur ce que dévoilera dans quelques mois Nintendo? Qu'est-ce que t'en penses, Anne?
Bah, du coup, oui, c'est vrai que là, l'avantage de la Wii est en train de s'estomper. C'est-à-dire que t'as Sony qui arrive quand même avec, on va dire, quasi l'équivalent. Maintenant, rien ne les empêche de faire maintenant la même chose en plus beau. Donc à voir maintenant si Nintendo va continuer à garder ce marché du casual et dire que on va pas faire qu'on n'a pas besoin de graphisme, etc., etc. Ce qui va être totalement faux en fait.
Probablement. Il faudra voir aussi si Sony réussit à capitaliser sur le même public et à séduire ceux qui sont sur Wii, quoi.
Et à faire du bon marketing, parce que ça a quand même été leur faiblesse. Sony a été très fort en marketing à une époque, puis c'est véritablement, il faut le dire, effondré. Et on voit que finalement, la Wiimote et compagnie, bah, Sony l'avait inventé. iToy Kinetics, c'est Wii Fit, mais
c'est
ça n'a juste pas marché, c'est Natal. L'iToy au global, c'était un peu ce que fait aujourd'hui Nintendo, sauf qu'ils ont réussi à prendre, à conquérir 100 000, 200 000, 300 000.
Quand même, ça marchait pas super bien, machin. Et tout. Mais il y a une autre théorie qui est la tienne, donc je vais pas te la voler, mais sur le développement des jeux. Ouais. Voilà. Vas-y, je t'écoute.
Bah, moi,
paroles.
C'est vrai que quand on a vu arriver Natal, la promesse nous paraît évidente. Et surtout, d'un côté, on avait donc la Wiimote de Nintendo, la Wiimote-like de Sony. Donc on se dit, bon, à marketer, comment, le message est peu pertinent. Enfin, c'est la même chose, mais différemment et en HD. Alors que l'autre, c'est vous n'avez plus rien, vous franchissez vraiment, c'est une révolution, etc.
C'est le seul truc qu'ils ont de fort, moi, je trouve, justement.
Ah oui,
mais la promesse,
elle est géniale. Ouais. Avant,
après, il y a le développement des jeux
instantanément. Et justement, ce que je pense, c'est que finalement, de la part de Sony, c'est pas si bête que ça, parce que du coup, la prochaine Nintendo va garder, a priori, c'est quasiment sûr, une interface assez proche de la Wiimote. Elle sera probablement plus précise, etc., mais ce sera le même style. Et ce sera de la HD, et ça va se rapprocher technologiquement de la Xbox 360, de la PS3 actuelle. Du coup, quand on est éditeur, on pourra développer un jeu sur, on va dire, on va l'appeler la Wii 2, sur Wii 2 et sur PS3, avec finalement un maître étalon technologique similaire et une maniabilité similaire. Mm-hmm. Alors que de l'autre côté, on aura Natal qui sera radicalement différent dans son approche. Et du coup, le faire du multi, ce sera sur la Wii 2 et sur la PS3 et sur la Xbox.
Et une version spécifique,
voilà.
Comme c'est le cas aujourd'hui, on a la version spécifique sur Wii et puis la version classique pour les deux autres supports. C'est un rapport qui va changer entre les trois.
Et du coup, ça va booster la Wii 2 et la PS3. Et que la Xbox, ça c'est dans l'hypothèse où Natal n'est pas très pertinent,
tu fais un peu ton
pasteur,
hein,
non mais quoi qu'il arrive, ça reste quand même un problème, parce que même si Natal est très performant, effectivement, en termes de base de code,
technologie, quoi.
Ce sera du développement supplémentaire pour les mêmes projets.
Et d'autant plus si ils font ce que nous on appelle de nos voeux, nous gamers, c'est-à-dire un Natal qui arrive à marier des interactions Natal et de la jouabilité à la manette. Mm. Parce que là, dans ce cas-là, il faut tout repenser complètement, quoi. Ça veut dire qu'il faut intégrer de la manette, mais machin. Alors que sur les deux autres formats, t'auras fait tout à la Wiimote. Enfin, compliqué tout ça quand même.
Ouais, mais attention, parce que si Natal est vendu avec la Xbox 360 Slim, il risque d'en vendre des sacrés paquets, à mon avis, avec un prix super abordable. Hein. Donc là, les développeurs, ils vont se dire, attendez, mais le parc installé d'Xbox aux États-Unis, il est gigantesque.
Ouais, mais...
En Europe, il est pas mal aussi.
Mais attention, parce que s'ils
vendent
des 3.6...
Ils vont forcément vouloir aussi aller là-dessus. Aussi.
Il faudrait qu'ils vendent beaucoup de 3.6 Slim avec Natal, puisque pour les anciens possesseurs de Xbox, il faudra quand même l'acheter à part. Ouais. Attends, Julo parle dans un micro parce que
un micro ça marche mieux. Voilà.
C'est pas ça, c'est que si je me souviens bien, au début quand ils ont parlé de Natal, ils pensaient justement le faire venir chez tous les gens qui avaient des Xbox 360. Je sais pas par quel biais, mais on peut imaginer.
C'est ça la question justement.
Non, mais on se souvient bien par exemple de
la
Dreamcast
bleue,
a fait jouer.
Anne, je pense a résolu la question.
La quoi?
Avec la carte bleue, hein,
ouais, mais ça va être pas cher du tout. Ils vont en faire un truc vraiment pas cher pour l'imposer. À mon avis, c'est comme ça que ça va fonctionner. Chouchou Rocket sur Dreamcast, comment ils ont fait? Et bah, c'était le jeu gratuit. Ils l'ont fait venir
vendu à 75 unités.
Chez tout le monde pour que les gens, pour démocratiser un peu le jeu en ligne, que les gens commencent à brancher leur Dreamcast dans le truc et tout. Tu vois, c'est pour...
Et ça a très bien fonctionné.
Ça a marché,
Je vous rappelle, 6 milliards de joueurs.
6 milliards de joueurs.
Oui. Voilà. C'est vrai.
6 milliards de joueurs, 10 millions de consoles. Bon. Très bien.
On n'a pas le droit de se moquer. Bon, bref, en tout cas, moi je pense que pour Natal, ils vont non seulement faire un vrai lancement avec en bundle la Xbox Slim, pour vraiment marquer le coup, pour que ça soit encore plus, qu'il y ait encore plus de buzz, mais tu auras également, à mon avis, un programme qui va permettre de faire venir Natal dans le maximum de foyers avec déjà des Xbox, quoi.
Bah c'est ce qu'on verra.
Mais ce sera un truc super agressif sur le prix, je pense, tout simplement.
Ah, ça, ce sera à suivre.
En tous les cas, c'est sûr qu'il y aura une bonne grosse baston sur les machines contrôleurs.
Ça sera pas 100$, moi je te le dis.
Et il est fort possible, effectivement, aussi qu'une Xbox 360 Slim voit le jour d'ici la fin de l'année, même si pour l'instant ce n'est qu'à l'état de rumeur. Il y a eu des photos qui sont passées avérées être fausses, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis il y a plusieurs indices qui nous portent à croire que devrait être dans les tuyaux. Oui, cette phrase ne veut rien dire. Mais bah, c'est pas grave.
Elle était énorme.
Traz, ton coup de cœur, toi, il est très original.
Et
il est sur de la Formule 1.
Ouais, tu sais, moi, la Formule 1, j'aime bien, c'est pas mal, tu vois. Donc...
Le tourniquet, là.
Hein?
Le tourniquet, c'est ça,
c'est ça.
Tu t'achètes ton billet, puis tu tournes. Tu fais bien attention à ne pas doubler.
Oui, c'est vrai que, bon, le dernier Grand Prix était bien en Australie. Hein. Bon, en Malaisie, je sais pas encore, parce que ce sera ce week-end, enfin, pour nous, en tout cas, aujourd'hui. C'est déjà passé. Forza Lewis. Bref, donc oui, mon coup de cœur, moi, c'est F1 2010, parce que, pour une fois, j'ai l'impression que les développeurs ont enfin compris comment fonctionnait un jeu de Formule 1. Enfin, la Formule 1 tout court.
Les développeurs, c'est Codemaster.
Codemaster, effectivement.
Qui ont une belle expertise, quand même, dans le jeu automobile, déjà.
Exactement, donc c'est revenu à des vrais développeurs de course auto. Et par rapport aux premières vidéos qu'on a vues, aux images, etc., ça s'annonce quand même vraiment très très bien, avec des effets de météo... qui ont l'air assez
la
fabuleux.
La pluie, par exemple.
Voilà, exactement. Bon, après, tout ce qui est feeling de la voiture et tout ça, on ne peut pas encore savoir, évidemment. Il faut y jouer. Mais en tout cas, je ne sais pas, visuellement, j'ai quand même un bon feeling, un bon sentiment, un bon pressentiment.
Il n'est pas prévu pour tout de suite, en plus, ils ont le temps encore.
Non,
de...
c'est pour la fin de l'année.
Fin d'année 2010.
Ils vont implémenter, effectivement, toutes les voitures de la saison 2010, tous
c'est
les
pas
pilotes.
Un peu dommage, ça, justement.
Si, bah, moi, c'est ce que je reprochais un petit peu dans les différentes news que j'ai faites, c'est que la saison est commencée depuis la mi-mars et. Et en fait, on va avoir le jeu de la saison 2010 à la fin de l'année, quand ça sera terminé quasiment. Donc
ça finit
bizarre.
Quand la saison de Formule 1
en novembre.
Ah oui, ouais. Bah, quand ce sera fini. Quoi.
Quand ce sera fini.
Il y aura revivez la saison de 2010.
C'est exactement
saison,
ça. Quoi. Okay. Donc, c'est un peu dommage, effectivement. Mais bon, si ça nous amène un jeu
voilà.
Foutu.
L'essentiel, c'est que ça soit un bon jeu de F1.
Voilà. Donc je pense qu'ils ont encore quand même pas mal de modes de développement là. Donc ils peuvent vraiment le peaufiner.
S'ils sont pas trop bêtes, ils mettent un mode création où on peut changer les noms des pilotes et faire des transferts. Comme ça, on peut.
Bah non, ils vont. Oui, exactement.
Ouais, en ligne.
C'est vrai. Là, ils vont tous les implémenter.
J'oublie qu'il y avait Internet aujourd'hui.
Oui, c'est vrai. C'est un léger Internet. Détail, oui. C'est les podcasts, on les diffuse sur quoi?
Ah,
allô
Internet, c'est
voilà.
Comme ça.
Ah oui, l'Internet.
Bon, voilà, donc espérons que ce soit une vraie réussite, enfin.
C'est prévu sur quoi?
F1 2010, c'est sur PS3 et Xbox 360.
Pas de version PC?
Je sais pas encore, je t'avouerai, là, je sais plus. Je
si,
crois
si,
que c'est quand
si,
même
si.
Prévu.
Je crois que c'est.
Oh oui, je crois que c'est quand même prévu. Mais du coup, les versions précédentes de leur studio, ils ont fait F1 2009 sur Wii et PSP, qui n'était pas si mal que ça en fait. Hein. J'étais agréablement surpris. Donc, si déjà là il y avait une bonne base, en sachant qu'ils ont dû faire ça assez rapidement, je suis assez confiant pour cette version 2010. Quoi.
Très bien. Très bien, très bien, très bien. Bah moi, mon coup de cœur, c'est... je vais me faire taper. C'est Metal Gear Peace Walker qui, au fur et à mesure. Et Julo, je crois qu'on partage.
Moi, moi, je suis un coup de cœur ambulant, comme je disais.
Oui, c'est ça.
Ce
mois-ci. On va revenir après. Ça va,
tu le vois, t'as un coup de cœur. Tu vois Julo, t'as un coup de cœur.
Et tu m'as troublé, monsieur. Non, effectivement. Non, mais je te laisse parler. Mais moi, j'ai été complètement convaincu par les vidéos de gameplay de Metal Gear. Franchement, je trouve ça génial.
Franchement. Alors il y a toujours cette espèce d'émotion de se dire putain mais s'il était sur PS3.
Ah ouais, c'est clair. Ouais, mais c'est comme avec les jeux Wii, c'est moi j'ai joué à Monster Hunter 3 là ces temps-ci, tu peux pas t'empêcher de te dire mais putain pourquoi ils ont pas sur
génial.
PS3 ou sur
et bah Xbox, à la fois je suis content et je vais expliquer pourquoi qu'ils sont sur PSP. C'est parce que je pense que sur PSP il y a moins le carcan lourd de toute la technologie à développer d'un jeu gigantesque, on peut aller un peu plus vite, un peu plus rapidement,
techniquement tu vas forcément plus vite
mais c'est déjà assez impressionnant vraiment. Le dernier trailer qui est passé, le 4e de gameplay avec les explosions et tout dans la ville dévastée et l'hélicoptère qui arrive, c'est à tomber par terre pour de la PSP. Et justement, j'ai l'impression que ça se concentre beaucoup plus sur des nouveautés de gameplay.
Mais
plein
c'est ça,
de petits ajouts. Ils vont tester plein de choses sur PSP qu'on verra dans un futur MGS5 HD plus conséquent. Et du coup, là, il prend des risques. Peut-être qu'il n'a pas assez pris ou qu'il n'a pas pu assez prendre sur MGS4, qui globalement, en termes de gameplay, était décevant, il faut le dire.
Je pense qu'il prend moins de risques aujourd'hui à faire Peace Walker sur PSP que Metal Gear Solid 4 à l'époque sur PS3, cela dit. Parce que pour toutes les raisons que tu as évoquées, ça coûtait plus d'argent, c'était plus long, la base installée de console n'était pas énorme, il n'y avait pas de précédent. Metal Gear Solid, c'est pas un jeu qui fonctionne à mort au Japon, hein, faut le savoir.
Ça fait son petit million,
voilà.
Quoi.
Alors que là, c'est tout le contraire. La PSP commence à avoir le vent en poupe. Il y a un précédent qui s'appelle Monster Hunter qui a été suivi il n'y a pas longtemps par un nouveau jeu de Bandai qui s'appelle God Eater, qui fonctionne aussi tout simplement parce qu'il a repris le principe de Monster Hunter. Et Metal Gear Solid Peace Walker, c'est l'adaptation de cette série en fait à la PSP par le truchement de cette formule,
parce qu'il y a du multijoueur,
cette formule qui fonctionne
coopératif,
grave
ouais, coopératif ouais.
Coopératif, si t'as une PS3 tu peux jouer en réseau, parce qu'on peut pas jouer en réseau sinon, hein. faut servir de la PS3 comme un hub, mais sinon tu réunis trois potes et tout est basé sur la coopération. Et voilà, après je sais pas où est-ce qu'il va trouver le côté un peu addictif qu'il y a dans les Monster Hunter et tout, qui passe par l'équipement,
parce que les soldats qui sont sur le champ de bataille, tu les recrutes, tu les mets dans ton QG, la Mother Base, et ils te fabriquent des objets, etc. Et donc finalement, tu te retrouves avec un village un peu similaire à Monster Hunter.
Tu réponds à ma question, alors. D'accord, ok.
Voilà. Et puis même le mode solo a l'air vraiment. On sent qu'il voulait que ce soit son MGS5. Puisqu'on le rappelle sur des blogs, vous pouvez aller voir.
Bah, en fait,
il y a des images du jeu avec le titre qui s'appelait MGS5, et ça a été changé en cours de développement.
Ouais, techniquement, c'est super impressionnant, franchement. C'est hallucinant. La PSP nous impressionne quand même de plus en plus. Et je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, on va passer au
On reviendra puisqu'on aura l'occasion de vous reparler vraiment de Peace Walker en profondeur, croyez-nous, faites-nous confiance, dans les mois et semaines à venir, avec une grosse surprise. On peut pas vous en dire plus.
C'est ça, je voulais dire, le petit côté Kojimesque drôle qu'on a dans les trailers et qu'on retrouve là en fait dans tout le jeu à travers les items et tout, c'est aussi le plus drôle des Metal Gear, j'ai l'impression. Voilà.
On va voir, mais en tout cas ça s'annonce bien. On va très très vite et tout parce qu'on est déjà bien avancé dans ce podcast. Et il reste beaucoup de choses à dire, les tests, etc.
Voilà.
Tes coups de cœur, justement, tu le disais, t'as été en mode sapin de Noël aujourd'hui.
Oui, Portal 2.
Portal 2, ouais.
Bah voilà.
Voilà. Très bien.
non, en fait, j'ai un petit peu peur parce que je trouve que c'est fait partie de ces œuvres, j'ai envie de dire, qui se suffisent un peu elles-mêmes. Tu sais pas trop comment ils vont enrichir l'univers et l'expérience que t'en as tiré et tout. Mais moi, c'est un des jeux, j'y ai joué très en retard, j'y ai joué que l'année dernière. C'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai jamais joué de ma vie. J'ai trouvé ça génial, il m'a complètement retourné. Et donc voilà, je suis très excité comme beaucoup de gens sur
exact,
Terre.
Pareil.
Ouais, ça a l'air effectivement assez profond avec un changement de aperture.
Ouais, surtout qu'il arrive aussi sur Mac.
Et oui,
oui.
Bah oui.
Bien sûr.
Merci.
On en reparlera justement tout à l'heure avec Steam qui débarque sur Mac ce mois-ci, là, au mois d'avril. Sapin de Noël, une autre boule de Noël, le stockage USB sur Xbox 360 qui arrive à partir du 6 avril.
Quand même, c'est quand même hallucinant. Mais
depuis le temps que tu galères avec tes
livrances, moi je fais partie de tous ces connards qui ont acheté la Xbox au tout début.
Tu viens d'acheter un paquet de connards,
cher, elle fait plein de bruit.
Et elle fait 20 gigas.
Et elle fait 20 gigas, dont, si je dis pas de conneries, 7 ou 8 qui sont occupés par le système. Et tout, donc finalement tu as 13 gigas. Moi j'aime bien télécharger des trucs comme Portal parce que j'y ai joué sur Xbox fait chier quoi, j'ai pas de place, je peux rien faire, je peux pas installer mes jeux qui ont des chargements trop longs et tout. Ces derniers mois j'essaie de choper le disque dur qui coûte un prix complètement hallucinant par rapport à ce que ça doit coûter. Je vais acheter le modèle Modern Warfare, j'en ai marre, j'aurai 250 Go, je serai peinard. J'attends que le disque dur sorte, il y a les news sur le disque dur 250 Go, je suis très content, surtout qu'il est pas si cher que ça par rapport aux autres. Et là du coup le stockage sur USB, ben voilà, voilà, c'est réglé. Je vais pouvoir foutre tout un tas de trucs sur mes clés USB dont je sais pas quoi foutre, j'en ai 15 000.
Non mais tu le dis à juste titre, sur mes clés USB, car il ne faut pas acheter les officiels parce que en revanche ils vont être vendus plus cher que
ça. C'est pour les cons, les levels supérieurs à moi, tu vois. Les encore plus cons que moi, ils vont acheter les trucs Xbox.
Et puis on continue avec toi encore, Julo. Cette fois-ci, c'est un coup de gueule. Et effectivement, j'ai envie de dire scandale. DSI, libérez votre haine, comme Dimitras et Eugène. Eugène S. DSI XL, on passe deux fois à la caisse. Qu'est-ce
qui
se passe?
Non, mais c'est un scandale, ce truc.
C'est un scandale, monsieur.
Alors, on a fait un podcast sur la dématérialisation et finalement, on n'a pas trop parlé de ça. C'est vrai que.
Parce que normalement ça ne devrait pas être comme ça.
Ça devrait pas marcher comme ça.
Alors resituons pour ceux qui ne savent pas encore.
Alors pour ceux qui ne savent pas, quand on achète un jeu sur Steam, sur le PlayStation Network, sur Xbox 360, Xbox Live, donc, sur iPhone, donc iTunes, etc., on a la possibilité, si on change d'iPhone, si on change de PS3, si on change de Xbox, et bah de, grâce au compte avec lequel on a acheté, qui lui ne change pas, le retélécharger une deuxième fois, etc.
Tu peux même faire vachement plus que ça. Sur PS3, tu peux avoir le même jeu installé sur 2, 3, 4, jusqu'à 5 PS3. En simultané chez toi.
En fait, tu fais ce que tu veux. Et sur les consoles DSi. Nintendo, et donc notamment sur DSi, et on pense à elle parce qu'il y a la nouvelle XL qui vient de sortir, si tu avais acheté plein de jeux sur ta première DSi, des jeux téléchargeables donc, sur le DSiWare, et bah, en changeant de console, tu ne peux pas les récupérer, il n'y a aucun moyen. Nintendo a annoncé qu'ils y travaillaient, mais que voilà, c'est comme ça. Légalement, dans la notice, c'est dit que tu achètes une licence d'utilisation qui dépend de la console et non pas d'un compte client ou quoi que ce soit. Donc, du coup, tu es obligé de tout racheter si tu veux rejouer au jeu que tu avais acheté sur ta première DSi. Ou alors de la garder, donc d'avoir deux DSi, ce qui va te faire une belle jambe. C'est scandaleux.
Mais oui, non, mais c'est
scandaleux, et c'est les méfaits de la dématérialisation, ce qui voilà.
C'est la dématérialisation utilisée à mauvais escient.
Bah, voilà. En tout cas, on voit clairement que Nintendo a énormément de mal avec le online au sens large du terme. Ouais,
Moi, je pense qu'au contraire, ils sont très intelligents.
Je suis de l'avis de Trash. J'ai du mal à croire que des gens aussi intelligents que Nintendo n'aient toujours pas compris comment ça fonctionne.
Nintendo, c'est une toute petite société avec très très peu.
Oui, mais c'est vrai. Quelques centaines.
Je
ne
parle pas
peine,
du compte en banque de Nintendo. Hein, je parle de Nintendo, la société. C'est une toute petite société. Ouais. Et ils ont très peu de gens qui font 15 métiers, machin, etc. Ils ont juste.
Ça n'empêche pas.
Ils ont juste depuis pas assez bossé là-dessus parce que pour eux, c'est pas franchement une priorité, quoi. Les gens
ça suit finalement un peu leur logique depuis le départ avec, avec leur online sur la Wii, sur la DS, FAT, la DS. Et c'est assez minimaliste, ouais. On se prend pas la tête, on a des codes, je me rappelle, pour Mario Kart. Quoi, ça.
Les codes amis, ouais.
Les codes amis.
Alors, bonne nouvelle, ils l'ont supprimé pour Monster Hunter Try. Voilà, donc tu peux directement être ami avec quelqu'un.
Waouh! Bah, justement, Anne, garde le micro, puisqu'on va passer à ton coup de gueule.
Ouais.
Ton coup de gueule, il est plus vieux puisqu'il s'agit d'Heavy Rain. Alors, fondamentalement le jeu, mais plus un petit peu tout ce qui s'est passé autour.
Moi j'ai attendu assez longtemps, j'avais découvert Heavy Rain lors de l'E3 l'année dernière, comme pour pas mal de journalistes. Et c'est vrai que j'ai attendu avant de commencer, tout simplement parce qu'il y avait d'autres jeux qui m'intéressaient. Et quand j'ai vu en fait tous les tests qui sont arrivés, ça, un bon paquet de tests qui si élogieux, franchement je me suis dit bon, je vais essayer le jeu quand même, parce que quand je vois des 20 sur 20 et tout ça, je ne pouvais pas comprendre. Et du coup, je ne comprends toujours pas en fait. Voilà.
T'as fini le jeu?
Non, j'ai pas fini le jeu, je dois être à 70%, un truc comme ça. Et franchement, ça, le jeu est bien. Ça, je suis vraiment pas, j'ai pas été réfractaire au jeu et tout ça, donc je passe un bon moment, mais je ne comprends pas pourquoi y attendre l'éloge. Donc certes, c'est une nouvelle expérience, mais est-ce que ça redéfinit tout? Là, j'ai du mal, non.
Tout,
c'est...
non, probablement pas. Traz.
Même en termes de techno, t'es pas impressionné quand même, toi qui es dedans complètement? Indépendamment de l'histoire du scénar que t'as peut-être
non,
pas aimé.
Non, c'est... en termes de techno, honnêtement, non, j'ai pas été... c'est... disons que je voyais ça comme une sorte d'évolution de Shenmue.
Bah alors déjà...
C'est du quick time event. Voilà, ça, moi, c'est pas ce que j'attends devant une console d'être passif à plusieurs endroits. Il y a vraiment plein d'endroits où je suis resté passif à regarder, Et ça, ça m'intéresse pas. Ça, c'est pas mon, ça, c'est pas ma conception des jeux vidéo. Mmh. Donc.
Mais c'est intéressant parce que ça t'intéresse pas, mais à la fois visiblement, tu passes un bon moment.
Oui, tu passes un moment parce qu'en fait, t'as l'impression de voir un film. Et c'est, je pense que c'est ce que les producteurs voulaient
faire.
Mais
c'est faire, un film interactif. Ouais, hein. Il se cache pas.
Mais voilà, c'est dans ce cas, c'est je ne vois pas pourquoi il y a eu tant d'éloges. Les 20 sur 20, les 95, je ne sais pas, je me souviens plus, mais voilà quoi.
L'occasion pour nous de clarifier les choses, hein. 5 étoiles, ce n'est pas ni un 20, ni un 10 sur 10, ni un 100 sur 100, c'est juste qu'on a adoré. Et effectivement, Julo a beaucoup aimé, mais c'est vraiment pas le seul ici. Hein. Moi, j'ai personnellement beaucoup aimé.
Moi, j'ai bien aimé aussi. J'ai moins aimé que vous, j'ai moins kiffé que vous, ça m'a moins touché, mais j'ai bien aimé quand même aussi, ouais. Mais moi j'ai eu une fin super rapide en plus.
Il est vraiment pas parfait. Il y a plein de petites choses.
Mais je pense que
si la perfection n'est
pas
de son,
je pense que si la critique. Alors après, on peut pas parler pour les autres, mais en tous les cas, pour nous, je pense que si on a été si enthousiasmé par le truc, c'est parce que c'est finalement assez rafraîchissant.
C'est un pionnier.
Et que même s'il est effectivement, même s'il est imparfait, ça ouvre des perspectives très intéressantes qui font qu'on a un peu envie aussi de voir la suite.
Sur un sujet qui nous tient à cœur, enfin depuis toujours, on parle de la narration, en se disant mais quand est-ce qu'on va un peu parler d'autre chose que ceci, que cela, ou alors en parler un peu différemment, etc. Mm-hmm. Là, tu l'as. Enfin, je veux dire, t'as God of War. Hein. On peut kiffer God of War et kiffer Heavy Rain pour des
tu peux même kiffer Just Cause 2 et kiffer Heavy Rain.
Tout à fait. Mais ce qui est pour répondre un peu à tes interrogations, si les gens en parlent tant et si les gens ont mis d'aussi bonnes notes au jeu, c'est tout simplement pour tout ça, parce que c'est non seulement novateur, c'est contre toute attente, parce que même moi j'en doutais un peu quelque part, je l'attendais quand même depuis pas mal de temps aussi, super maîtrisé quand même quand tu y penses, parce que
non, tout à fait.
Avec une telle structure, évidemment je t'apprends rien quand je te dis qu'il y a un énorme arbre scénaristique, etc. Ou un élastique.
C'est, voilà, c'est ça, j'allais dire.
Bref, en tout cas, voilà, ça aurait pu très mal tourner, ça aurait pu être vraiment, ça aurait pu être raté assez facilement, et finalement, il est plein de maîtrise, ce jeu, en fait.
Non, mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le fait pour moi, c'est que, au final, ça, quand je suis devant un jeu, c'est vraiment la sensation quand je suis devant mon écran, c'est que faut que je puisse apprécier le jeu. C'est-à-dire que avoir cette sensation de se dire bah voilà, là je joue vraiment le jeu, et un jeu à 20 sur 20, c'est que quoi qu'il arrive, t'es devant, t'es captivé jusqu'au bout. Là, il y a plein de moments où c'était il y a eu des temps morts et tout ça. Ça, je dis pas que le jeu est mauvais, hein, ça, il peut et ça, mais il est loin de la perfection, c'est-à-dire qu'il y a encore plein de choses à faire.
Tu sais que c'est paradoxal, parce que moi j'en ai reparlé là dernièrement, j'étais avec d'autres journalistes pour partir à New York pour aller voir l'UFC, et donc on a pas mal parlé d'Heavy Rain avec certains journalistes qui viennent de la presse généraliste, pas forcément jeux vidéo, et d'autres journalistes très gamers, etc. Et bah moi, et j'étais d'accord avec les journalistes généralistes, c'est vraiment ces moments de rien entre guillemets, de roleplay quelque part, qui nous ont de loin le plus plu. C'est-à-dire que c'est pas les quick time, etc. Moi, m'ont presque même un peu déçu, parce que je trouve que c'est pas assez punitif. J'en ai foiré certains, et je m'attendais à avoir la sanction directe, parce que je suis un gamer et tout, et ça me faisait chier de pas être sanctionné, de pas voir mon personnage mourir, ou d'avoir un embranchement direct. En revanche, les moments où je me retrouve, par exemple la scène d'ouverture, qui dure, je sais pas, il y a un quart d'heure, où tu t'as rien à foutre quelque part, je l'ai adoré. La scène avec son fils au début, où il y a à part lui apporter une pizza, et s'asseoir à côté de lui, et bad tripper en le regardant mater la télé, et commencer à tousser,
sur moi, celle-là.
Pour moi, elle est incroyable, incroyable, parce que
la scène de la gare,
transposé
la scène de
tout
la gare
à l'intérieur. J'étais pas en train de regarder un personnage de jeu vidéo. Ce personnage, et pareil, quand il fait ses choix, c'était moi. Et je me suis dit, tu vas agir comme si c'était toi, comme si t'avais un gamin, et comme si ce gamin, il allait mourir si tu faisais pas bien les trucs.
Et depuis combien de temps on demande on demande aux jeux vidéo de nous proposer des choix un peu plus radicaux, un peu plus intéressants, que tu vas dans le couloir de droite ou dans le couloir de gauche, ou alors tu tues ou tu pardonnes, ou tu vois, ce genre de truc super binaire, etc. Et moi, j'ai bien aimé l'idée, comme tu dis, de faire ses choix et de se poser soi-même la question. Voilà, qu'est-ce que je ferais, ou alors est-ce que je fais quelque chose que je ferais pas,
de la place
ou,
pour hésiter,
est-ce
aussi
que ça va créer par la suite machin, etc. Où est-ce que ça va m'emmener, et quelque part ça t'emmène dans des trucs complètement différents, et c'est ça qui est assez
parfois
assez
t'as des choix, tu sais, où t'as 5 minutes pour les faire. J'imagine qu'il y a beaucoup de gens, bon, ils font ok, bah je sais ce que je fais, ok, tac, ils le font tout de suite. Moi je te promets qu'au début je me disais je pense que je vais faire ça, et j'ai bénéficié de ces 5 minutes pleines, et je crois qu'à chaque fois, je crois que ça se produit deux fois, j'ai agi à 3 secondes de la fin, parce qu'au fur et à mesure, je me suis assis, il y a toujours une chaise, c'est marrant dans ce jeu, où tu peux t'asseoir, et je m'asseyais à chaque
fois. Des toilettes aussi.
Et des toilettes. Ouais. Et j'allais toujours aux toilettes d'ailleurs, et je me lavais toujours les mains après.
Des frigos.
Et ben je me posais et je réfléchissais. Et là, je sortais un peu du jeu et je me mettais moi à la place du perso. Et j'ai trouvé ces moments incroyables, ces moments où tu ne fais rien et où en fait tu réagis toi en tant que joueur et en tant qu'humain. Et tu composes ton histoire et tu y mets ce que tu as envie d'y mettre. Et c'est pour ça que si tu y arrives, enfin si tu y arrives avec pas grand chose à vouloir y mettre, je pense que ça peut être très déceptif. Parce que c'est, sinon l'histoire est finalement assez banale.
Oui,
elle n'est pas trop malmenée, mais elle n'est pas incroyable. Ouais,
non,
pas du
tout. Non, ce qui est incroyable, c'est tout ce que tu peux te raconter entre différentes personnes qui ont fini le jeu. Ah, ouais, ça aussi, c'est génial.
C'est
une fois que tu as fini le jeu et tu parles à quelqu'un qui vient de le finir, tu as fait quoi? Tu as fait ci? Ah, on peut faire ça, mais pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi j'ai fait ça? Ah oui, mais du coup, ça a donné ça, ça, ça et tout. Et ça m'a fait.
Mais c'est je crois que c'est vraiment le vide qui pose problème à certaines personnes et cet espace d'hésitation qui plaît à certains et qui n'aime qui plaît pas du tout à d'autres.
En tout cas, vous savez quoi, si on peut continuer à en parler hors micro tout à l'heure, mais on va passer parce que mine de rien, ce podcast avance énormément. Et c'est vrai qu'Eviren, on en a déjà beaucoup parlé.
Ouais.
Beaucoup trop,
mais
diront certains.
Mais preuve quand même que c'est un jeu qui fait discuter, encore aujourd'hui, plus d'un mois après sa sortie. On va passer très vite sur mon coup de gueule qui était dédié à Télématin avec les fameux MEPORG, les termes barbares. Alors ça s'écrit MMOPROG, je sais pas quoi. Et surtout, j'ai envie de dire, le second effet qui cool,
c'est
où il y a une interview voilà, sur leposte.fr où derrière presque ça le fait marrer de voir que ça crée un buzz et que bah ouais bah moi j'ai envie de dire me porc parce que je trouve que c'est mieux mais monsieur faut arrêter là stop arrête toi t'es ridicule enfin t'es je sais pas moi tous ces journalistes qui parlent de trucs qu'ils ne connaissent pas on a le droit de se tromper bien évidemment et je pense que nous à Gameblog on se trompe souvent quand on parle de choses qu'on ne maîtrise pas
même
c'est
quand
d'ailleurs
on parle
pour ça qu'on essaye de pas en parler mais au moins reconnaître
son
erreur rapidement bien et avec recul et puis pas tomber dans des clichetons à la con comme une fois de plus on a resombré le MMORPG là une fois de plus qui était traité non pas parce que ça marche bien mais parce que l'addiction cosmique et phénoménale
nos
pour
enfants,
150 personnes en France sur des millions de joueurs mon dieu c'est ouf arrêtons
libérez
votre haine. Allez, on va passer à la suite de ce podcast. On va aller beaucoup plus vite, hein, puisqu'on va parler des tests des grands jeux qui sont sortis
alors
au
là,
mois
du
de
coup,
mars
va...
2010. Et bien évidemment, vous le savez, on va aller très rapidement. Vous pouvez les retrouver tous ceux qu'on va évoquer en test écrit ou pour certains aussi en test vidéo. On va commencer avec toi, Anne, puisque l'un des jeux qui t'a beaucoup plu en mars 2010, c'est Battlefield Bad Company 2.
Ouais, tout simplement parce que... j'attendais en fait la suite d'un Battlefield.
Alors t'as pas été déçu par l'aspect moins humoristique du
Ouais
du
voilà, en fait il y a des petits endroits où tu souris mais effectivement ça manque
C'était plus vitriolé dans le premier quoi.
Il y avait l'humour du premier qui était génial et que tu retrouves pas là et c'est vraiment dommage. Mais sinon à part ça bon après l'histoire on l'aime ou on l'aime pas et puis c'est assez soutenu, c'est tu joues un peu à la Call of Duty forcément donc une recette qui marche et puis le multi il est juste génial.
Voilà,
ça,
ouais.
Le multi avec les véhicules, les différentes façons de jouer.
La destruction des décors aussi.
La destruction des décors.
C'est quand même
ça,
assez rare encore en multi. Ouais.
Donc moi je suis totalement pour, franchement.
D'ailleurs, je crois que Traz est tout à fait de ton avis aussi.
Ah oui, complètement. Moi j'ai vraiment craqué sur ce jeu-là. Ouais. Honnêtement, j'ai pas joué au premier, donc je peux pas voir trop la différence. Mais par contre, j'ai joué à Modern Warfare 2, je l'ai fini, etc.
Ouais.
Je suis pas un super pro du multi, un super fan non plus. Toi, t'as adoré le multi, visiblement.
Ouais.
Poufy, c'est pareil, il a adoré le multi.
Poufy qui va arriver au micro, hein. Poufy qui arrive.
Poufy qui arrive
là, parce que...
dans la pièce.
Il va nous parler
mais,
du multi.
Mais rien que le solo, déjà, je trouve.
Non, le solo était bon, ouais.
Le solo, je le trouve vraiment plus reposant et tout que Modern Warfare 2, où t'as l'impression de tracer tout le temps, de rien voir. Mmh. Enfin, ça, c'est un des griefs que je lui ai fait.
Je suis assez d'accord, dans le 2, ouais, ça
mais par contre, de Bad Company 2, putain, tu prends ton temps, tu snipes tranquillement,
tu snipes tranquillement,
tu vas derrière les mecs. Et l'IA est pas mal foutu en plus, hein. Ils sont pas mal, ils sont loin d'être
tout con, à fait, non.
Et franchement, je prends vraiment mon pied, quoi. J'ai pas fini encore, mais vraiment.
Bah, imagine-toi ça avec encore plus d'humour, parce que l'humour à l'américaine,
ouais.
Ça c'était le 1. Et c'est un peu dommage, c'est tout. Mais sinon, pour le reste,
c'est
je suis totalement d'accord.
Donc là, on a essentiellement parlé de la campagne solo. Un petit mot de la part de Poufy, notre cadreur monteur de l'extrême.
Oui, bonjour à tous.
Alors, toi, t'as passé beaucoup de temps sur le mode multi et t'as kiffé.
Ouais, le mode multi, il est vraiment très très bon.
Ah, en fait, j'ai reçu ta lettre de Dem, c'est bon.
Non, je suis encore là. Je resterai.
Survivrai.
Le multi était très très bon.
Le multi, très très bien. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'ils aient mis un mode hardcore dedans.
Mm-hmm.
Donc, une balle, t'es mort.
D'accord.
Ouais.
Ultra réaliste.
Donc, comme le propose Modern Warfare 2, et le 1 aussi. Et sinon, il n'y a aucun lag. Il y a la gestion de la balistique aussi que j'ai bien appréciée. Pas dans photo là.
Ouais, on peut aller sur ton timidé. On peut aller sur ton blog hein, qui change à peu près de nom toutes les demi-heures hein, du blog de Clara Morgan au blog de Poufy. Oui. Mais néanmoins sur ton blog officiel.
Oui parce qu'il y a une double personnalité, c'est un peu gênant mais bon.
Anne doit croire qu'on est totalement.
Un peu ouais.
Mais donc effectivement sur ton blog, il y a t'as fait une vidéo du mode multijoueur qui montre
oui,
encore un peu plus.
J'ai fait mes premières minutes on va dire de du mode multi de Battlefield.
D'accord. Company 2. Bon, on aura compris en tout cas que le jeu, à la fois en solo et en multi, fait l'unanimité. Donc ça, c'est une bonne chose. Effectivement, il nous aura beaucoup plu. Autre FPS qui t'a bien plu, toi, Anne. En tout cas, t'es en train de rentrer dedans. C'est Metro 2033.
Tout à fait.
Qui, lui, n'a pas vraiment de mode multi.
Non,
qui
mais
se concentre
par contre,
sur le solo,
il y a justement pour ce...
Tue la gueule. Tais-toi, Drasse.
Je sais pas si vous avez entendu, mais non. Effectivement, le mode solo tue la gueule. Et puis, avec des graphismes assez bien foutus. Et surtout, une ambiance... Ruskov, on va dire.
Mm-hmm. À la Stalker, en fait, voilà, c'est des mecs qui c'est des anciens.
Vraiment stalkers. bien retransmis. Donc, j'ai aussi, ça, j'accroche là actuellement, mm-hmm. Donc je vais continuer. Je vais continuer.
Preuve que le FPS est quand même en pleine forme en ce moment. On va passer le micro à Tiger Suplex, puisque toi, tu as réalisé le test de Miami à Paris des Pokémon, les nouvelles versions, les remakes.
En fait, c'était de l'autre côté de la. C'était sur la côte ouest.
T'étais sur la côte ouest.
C'était plutôt de San Francisco, San Diego. Mais
désolé.
C'est pas grave, on peut faire le test quand même.
C'est ce qu'on appelle les stagiaires bourgeois.
Voilà.
Alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler des versions argent Soul Silver et version or Earth Gold ?
Oui, bien sûr. Alors, Pokémon version argent Soul Silver et Earth Gold, qui sont ces deux versions des remakes des versions or et argent sorties à l'époque sur Game Boy Color.
23 millions d'unités, hein. C'était les plus populaires de l'histoire
c'est
des Pokémon.
C'est ça, ça reste les préférés des fans en mm-hmm. général. Vous pourrez le lire dans le dossier Pokémon qui est aujourd'hui en ligne sur le site.
C'était vendredi dernier.
Ah, oui,
c'était...
donc aujourd'hui il est toujours en ligne.
Ah oui.
Qui avait apporté énormément de nouveautés à la Sega, à la saga, pardon.
C'était bien ça. Qui apportait beaucoup
laissez
de nouveautés.
Laissez-le s'exprimer.
C'est bon.
Je dois être P1 comme la table.
T'inquiète.
Exact, rouge laqué.
Donc voilà, c'est portage chez remake d'or et d'argent sur DS qui était très attendu par les fans. Mm-hmm. Un épisode qui condense en fait toutes les qualités des différents Pokémon auxquels on a pu s'essayer. Mais comme je le dis dans le test, et certains visiblement Pokémaniacs ont eu du mal un petit peu à l'entendre et n'ont pas été d'accord avec mon point de vue, c'est que pour moi, le système de jeu de Pokémon qui est hyper efficace, hyper complet... commence tout de même à s'essouffler. Ça fait plus d'une dizaine d'années que le système n'a pas bougé d'un iota. Mmh. Et quand, comme moi, on a fait énormément d'épisodes depuis le début de la saga, la redondance du gameplay commence un peu à être usante. Ouais. Et j'avoue que le retour en terre Pokémon s'est fait avec un peu moins d'enthousiasme. J'attendais énormément ce jeu. Et
d'autant qu'au niveau de la réalisation, c'est pas forcément...
Bah, ça n'a jamais été la marque de fabrique des Pokémon. Hein.
Mais ils auraient pu faire un peu mieux quand même.
Un peu de côté.
Et l'addition du Pokéwalker, est-ce que c'est un vrai plus est-ce que...
Bah, justement, c'est un peu le...
On rappelle ce que c'est. C'est un espèce
de
podomètre.
Le Pokéwalker, c'est une... C'est une sorte de petit Tamagotchi, en fait. C'est un podomètre. On peut y transférer un Pokémon donc depuis la cartouche du jeu DS jusqu'au Pokéwalker. Et on marche donc en compagnie de son Pokémon. Et le nombre de pas que l'on fait nous permet d'obtenir ce qu'on appelle des watts, qui est en fait une monnaie d'échange par la suite dans le jeu contre de nouveaux parcours, des objets, ce qui nous permet, les nouveaux parcours par exemple, découvrir de nouveaux chemins pour accéder à certains Pokémon auxquels on n'aurait pas accès autrement. C'est plutôt rigolo, ça est essentiel au jeu parce que ça permet donc d'obtenir des Pokémon que par le biais du Pokéwalker qu'on pourrait pas avoir dans la cartouche normalement. Donc si on veut compléter son Pokédex à 100%, il faut jouer avec le Pokéwalker. Le seul bémol en fait, c'est que je trouve que ce Pokéwalker en fait, il est symptomatique de ce que je reproche au jeu, c'est-à-dire que vu qu'on est arrivé au bout d'un certain gameplay, on rajoute un accessoire pour rendre le titre un peu plus intéressant. Mmh. Et
ils
voilà.
ont du mal à se renouveler dans le jeu en lui-même, dans
c'est
le gameplay
ça.
Pur.
Donc, comme j'ai pas répondu aux commentaires par rapport au test, mais je suis pas pour une refonte totale du système de jeu. Je veux dire, il y a des bases qui fonctionnent très bien, mais il serait peut-être temps quand même de dynamiser les combats, de les renouveler un peu, mm-hmm. parce que quand on voit qu'il y a 17 jeux Pokémon du RPG Pokémon qui sont sortis depuis la Game Boy jusqu'à la DS,
ils ont tous le même système,
voilà, avec quelques subtilités en plus, mais qui restent globalement le même système,
il est temps que ça change.
Voilà, il faudrait dynamiser un peu les choses.
Il est temps que ça change. Alors un autre jeu justement qui est sorti en mars et qui est énorme finalement, c'est Final Fantasy XIII. Lui aussi, la question lui était posée de savoir s'il fallait changer ou pas. Anne, tu as pu y jouer un petit peu?
Non, j'ai pas encore pu jouer. Je viens juste de finir God of War, donc.
D'accord, bah on va en parler dans quelques instants. Nous, c'est Emeric chez nous, Mimic, qui l'a testé. Il a aimé certains aspects, c'est-à-dire la réalisation graphique, le voyage en lui-même, le système de combat. Il a un peu moins aimé le côté forcément linéaire de l'aventure. Et moi, j'y rajouterais vraiment le côté fondamentalement, furieusement, gnangnan, japonais, là on peut le dire, de cette aventure qui, franchement, et vous le savez pourtant, je suis particulièrement fan de la série des Final Fantasy, que je suis... pas depuis le premier, mais depuis le 4, le 5, le 6, etc. Et franchement, quasiment tous m'ont laissé un souvenir assez ému. J'avais été un peu déçu par le 12, je suis fondamentalement déçu par le 13. Je peux maintenant, après plusieurs heures de jeu, le dire haut et clair. C'est très beau, très bien, mais qu'est-ce que c'est chiant. ça n'avance pas, c'est niais. Le système de combat met énormément de temps quand même à montrer sa richesse, sa profondeur. C'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine d'heures de jeu, on n'est toujours pas à l'intérieur vraiment du système de combat, on est toujours dans un espèce de grand tutoriel. À un moment, je veux bien que ce soit l'apanage des RPG, de rentrer, de bien montrer l'esprit du jeu, etc. Mais
en même
là,
temps,
c'est
même
trop
de
long.
Mémoire, sur les anciens FF, tu mettais pas si longtemps
non,
que ça.
Non, là, c'est vraiment trop long.
À...
Et puis, tous les poncifs sont là, quoi. Et il n'y aurait pas la réalisation qui effectivement est enchanteresse, et encore j'ai envie de dire qu'il y a certains décors qui sont quand même très droits, très coupés à la serpe, très froids, mais après esthétiquement parlant c'est vrai que c'est un beau voyage, hein. Il n'y a pas de doute là-dessus, les cinématiques sont les plus belles qu'on a jamais vues, voilà, les musiques sont assez somptueuses aussi, ouais. Mais il manque cette magie, il manque ce côté émouvant. Moi je ne suis pas ému une seconde dans ce Final Fantasy XIII, alors que parfois, et d'entrée, hein, ils font mourir des personnages, etc. Mais il n'y a aucun affect, on n'a rien créé avec ces personnages, donc bah, ça tombe à plat, et je trouve que la magie d'un Sakaguchi, qui était vraiment au règne des Final Fantasy jusqu'à l'épisode 9, et bah, elle commence vraiment à se faire sentir qu'elle n'est plus là, puisqu'il est parti du côté de Miss Walker. Et moi, je trouve que Lost Odyssey, une fois de plus, je sais pas, j'en reviens, oui. Mais je l'ai dit au moment du test, qui, à mon sens, était le RPG japonais le plus impressionnant, intéressant en tout cas, de sa génération HD, bah, il l'est toujours, définitivement, même après la sortie d'FF13, et de loin. Et du coup, maintenant, j'attends avec une impatience, mais non dissimulée, de découvrir The Last Story sur Nintendo Wii.
Tout en se disant, on se disait régulièrement, putain, fais chier, c'est sur Wii quand même.
Bah oui, mais je mais préfère bon. Un jeu un petit peu moins beau, mais qui sache te transporter. Ouais. Lorsque c'était sur Super Nintendo ou quoi que ce soit, c'était infiniment moins beau que sur la Wii, et pourtant, qu'est-ce qu'on kiffait.
Bien sûr.
Et, c'était et donc, retrouver des musiques à la Nobuo Uematsu, les musiques, vraiment, je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à aller sur le site de Miss Walker, le mythe japonais, vous le trouvez très facilement dans les news sur Gameblog, parce que la BO qui est en train de se dévoiler, on ne sait pas encore vraiment si elle est signée Nobuo Uematsu, mais pourtant il y a un petit peu des petits trucs qui lui ressemblent. Si c'est ça, c'est juste, mais au secours, on a déjà envie de plonger dans cette aventure qui a l'air fraîche, émouvante, voilà, enfin vachement mieux qu'FF13, très honnêtement. Non. Même si je comprends que certains puissent apprécier, hein, mais c'est pas mon cas malheureusement, et Dieu sait que j'aurais aimé. T'en parlais il y a quelques instants, Anne, et puis à côté de toi il y a Raon, un autre boucher.
t'as vu un peu
God of War 3.
On est catalogué direct. Okay.
God of War 3, le jeu qui a enterré l'UFC.
God of War.
Donc comment ça se passe? Vous avez kiffé? C'est sans conteste possible.
Pour moi, voilà, ouais, c'est God of War, c'est beau, c'est titanesque, c'est
poétique.
Ouais, non.
c'est
sanglant.
Si, c'est poétique.
Si. J'ai beaucoup aimé ma rencontre avec Aphrodite.
T'as beaucoup aimé, parce que nous, non.
Non, j'ai pas aimé réellement, mais...
Non, mais on l'a trouvé terriblement gamine, cette séquence. On resitue un peu, c'est la séquence traditionnelle de sexe, de God of War, etc., où bien évidemment la caméra s'estompe, mais donc on l'entend faire l'amour avec Aphrodite, mais au lieu d'avoir, je sais pas, même un petit cri à la con, c'est des bruits d'armes, chling, chling.
Ouais, mais c'est un parti pris humoristique.
Voilà.
Ouais.
Non, 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 mais mis à part ça, ouais, c'était surtout le côté tu t'en prendras en plein la gueule durant tout le jeu. Ça, du début à la fin, ça s'arrête pas. C'est le genre de jeu que j'aime, ça, où j'aime bien avoir cette sensation de faire une sauvegarde et de me dire, bon, là j'arrête, il est 4h du mat, mais bon, je continue 30 secondes parce que je veux juste voir ce qu'il y a derrière.
C'est exactement ça.
Bah, voilà. Et alors là, c'est l'archétype du jeu qui me fait tout le temps.
Ça, bon,
et ça,
signe,
j'adore.
C'est plutôt bon signe quand
voilà, ça
c'est
bon.
T'arrives pas à lâcher
exactement
la manette.
Ouais. Ouais.
Bon, on va pas en faire des tonnes. Hein. Vous savez qu'effectivement, ici, collégialement, on a vraiment pris une grosse claque avec God of War 3. Et puis maintenant, on attend une hypothétique DLC qui compterait vraiment la toute fin de ce God of War 3 qui s'arrête.
Qui a été un petit peu amputé, oui.
Voilà, un petit peu abruptement. Tiger Suplex, tu vas pouvoir reprendre le micro parce qu'il y a un autre jeu, une fois de plus. Yakuza 3. Qu'est-ce que tu as pensé de ce titre? Il y a Julo aussi qui pourra interagir tous les deux.
Yakuza 3. Je rapproche le micro.
Ouais.
Concernant Yakuza 3, on reste dans du très classique, je trouve, hein, par rapport à Yakuza, malgré le fait qu'on soit maintenant sur PlayStation 3. Les amateurs de la série vont trouver leur compte, comme d'habitude. Mais on reste dans un beat'em all assez classique. Moi, j'avais été grandement déçu en fait, par les épisodes précédents sur PlayStation 2, parce qu'on a un peu la promesse d'un monde ouvert. On se balade dans Tokyo. Et malgré tout, on a ce sentiment un peu d'être dans des couloirs, c'est-à-dire que régulièrement, on tombe sur des bandes, des petits gars qui veulent se friter, donc là, les combats commencent, sont assez jouissifs. Mais voilà, on aurait aimé peut-être plus d'interactivité avec le décor, pouvoir faire plus de choses dans les magasins, ce genre de choses. Et même si on est sur PS3, c'est toujours pas le cas, c'est toujours la même recette. Alors après, c'est pour se défouler, c'est parfait, mais voilà, ça manque un peu d'interaction, un peu de vie en fait.
Ouais,
Julo pour compléter.
Alors non, il faut être fan de
voilà.
De Yakuza, donc la mafia japonaise et tous ces films qu'il y a pu avoir dessus, les premiers films de Kitano que j'adore et tout. Alors moi, a priori, je suis un super client pour ça. Et en fait, j'ai, pour une raison que j'ignore, surtout que c'était un peu le Shenmue version au niveau du moteur de jeu, Shenmue version mafia japonaise, voilà. Et ben, j'ai pas joué ni au 1 ni au 2 en fait, et donc j'ai découvert avec le 3 et j'ai arrêté de jouer parce que ça m'a un peu saoulé. Alors, je trouve ça super vieillot en fait.
Les animations, par exemple,
tout,
quand on
les animations,
en
c'est le choc.
Comme Lupin.
Mais je trouve ça vieillot
dans le game design
dans
aussi.
Dans le game design, quoi. Mmh. Et cela dit, je suis hyper. Je me suis maté, par exemple, dans Yakuza 3, t'as les résumés des deux premiers. Mmh. T'en as pour une heure de vidéo. Mmh. Et là, je les ai matés, j'ai kiffé. Vraiment. Parce que t'avais tous les trucs avec les histoires de clans, de famille et tout. Génial. Et là, j'ai lancé le jeu. Et j'étais un petit peu déçu par ça, et du coup, j'ai pas trop
poursuivi. Tu kifferas Yakuza 3 quand il sera résumé en vidéo dans Yakuza 4, qui a déjà été annoncé.
Dans Shenmue 3.
Ou dans Shenmue 3.
Voilà.
Découvrez aussi l'autre histoire, Yakuza 3.
Mais par contre, c'est un jeu gigantesque avec plein de mini-jeux et surtout des trucs marrants, quoi. Donc il se prend pas du tout au sérieux, c'est un vrai jeu vidéo au sens pur du terme, quoi. C'est comme des jeux d'il y a 5-6 ans, même plus, quoi.
Et c'est comme un autre jeu dont nous allons parler tout de suite, Just Cause 2, qui lui aussi ne se prend pas au sérieux.
S'assume complètement.
C'est une sorte de GTA like, mais sur une île paradisiaque. Raon.
Bah, c'est GTA avec le scénar en moins, quoi.
Voilà. Ouais. Mais parce que ce niveau-là, c'est.
Mais le scénar a aucun intérêt. Tu débarques sur une île paradisiaque avec plein de paysages différents, de la montagne, de la plage, de la jungle, de la ville, etc. Pour foutre le boxon, quoi, en gros. Et plus tu fous le boxon, plus tu débloques de missions. Mm-hmm. Chacune des missions t'invitant à foutre le boxon et comme ça, la boucle est bouclée. Donc, c'est surtout intéressant parce que t'as une aire de jeu vraiment titanesquement grande, un moteur physique rigolo, plein de trucs à faire péter partout, des véhicules à conduire dans tous les sens, et donc pour les amateurs de gameplay émergent et d'éclate bas du front, c'est génial.
Voilà. Il partage un terme avec God of War, c'est le chaos. Voilà.
Exact.
Il faut mettre le chaos.
Il faut foutre la zone, t'as vu. Un autre jeu sur lequel on va passer rapidement, mais parce que toi tu as beaucoup aimé Raon, un petit jeu coup de cœur, et du coup on va le soutenir clairement, c'est Shime.
Shime, ouais, ou Shime, je sais pas trop comment on dit en fait.
Non, pas la chanteuse, Trace.
C'est un. Mais en fait,
Shime.
il est sorti il y a quelques temps déjà maintenant, en fait, finalement. C'est un jeu musical puzzle. Qui serait en gros l'enfant bâtard de Tetris et de Lumines, où tu sur certains morceaux tu poses des blocs sur une grille, Tu dois coloniser cette grille en formant des carrés parfaits avec
ces
pièces.
Pour rien là. Personne ne va rien comprendre. C'est vrai, t'as raison.
Donc, qu'est-ce qu'on ressent ?
Qu'est-ce qui est la force du jeu ?
La force du jeu, c'est que c'est les musiques déjà. Il y a des musiques de Paul Hartnoll, par exemple. Les musiques sont géniales. Le morceau Moby, j'aime moins bien, mais il est pas mal. Il y a du Philip Glass. Alors, malheureusement, il n'y a que 5 morceaux, donc c'est très peu. Sachant qu'il y a un morceau par grille. Les grilles ayant quelques différences dans les pièces et dans leur structure, donc elles offrent un challenge un petit peu différent, mais c'est surtout le morceau qui est intéressant. Ce qui est bien aussi pour Chim, c'est qu'il est pas cher du tout. Il est à 600 Microsoft Points, si je dis pas de conneries.
400 même.
Ouais, 400 Microsoft Points. Et,
c'est que dalle.
Et, ouais, et la majorité du prix de ce jeu sera en plus reversé à des œuvres caritatives. Donc franchement, il y a toutes les raisons du monde pour y jouer, sachant que après, même s'il n'y a pas suffisamment de grilles et même s'il n'y a pas suffisamment de morceaux, tu peux y jouer ad vitam aeternam avec le système de score.
Et c'est juste planant quoi.
Ouais, c'est... Que tu rentres dedans, t'arrives pas à t'arrêter.
Mélange entre Tetris et Lumines, c'est le côté Lumines, c'est que la musique se fait aussi en fonction des trucs que t'as posé voilà, sur la grille et qui vont disparaître quand la ligne de tempo passe comme ça. C'est juste planant quoi.
Ouais, en tout cas, vous avez passé beaucoup de temps dessus, effectivement. même à regarder de l'extérieur, c'est assez hypnotique. On joue un autre jeu à l'oral, Traz. C'est Red Steel 2 qui est sorti, et puis après, on va conclure vraiment la partie test. Donc c'est la suite d'un jeu qui était pas terrible.
Hein. bah, c'est moins qu'on peut dire, il était même complètement raté parce que je pense qu'ils l'ont rushé pour sortir justement en même temps que la Wii. Donc c'était Red Steel 1, donc voilà, tout le monde avait compris. Alors le 2, moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Hein, c'est le game design a complètement changé, hein, une espèce de western
Mad Max,
improbable, Mad Max, japonisant, médiéval, etc. Et donc, on est content d'avancer dans le jeu au fur et à mesure, une espèce de grand hub à chaque fois, où tu vas prendre des missions dans une pièce particulière, et ensuite tu vas faire ces différentes missions-là, et en sachant que durant le parcours, tu as des sbires pas assez nombreux à mon goût, ça c'est un petit peu le reproche qu'on peut lui faire, c'est que c'est souvent assez calme en fait. Ouais, tu avances, une fois que tu les as tous pulvérisés, tu peux retomber dessus éventuellement, mais c'est assez calme par moment, donc ça c'est...
Mais c'est plus dynamique que le premier, et surtout beaucoup plus précis grâce au Wii Motion Plus, qui est d'ailleurs obligatoire.
Le Wii Motion Plus est effectivement obligatoire, il n'est pas vendu avec le jeu, mais séparément. Et effectivement, il est beaucoup... oui, il y a des packs, c'est vrai, pardon. Il y a beaucoup de précision justement dans les coups, etc.
C'est plaisant à jouer justement ?
Ouais, c'est très plaisant, même si moi j'ai connu des petits soucis, comme je l'ai dit dans le test, de décrochage de Wii Motion Plus. Je sais pas pourquoi. Non mais vraiment,
parce que j'avais cassé la Wiimote.
Donc là, vous devriez voir Julo qui est en train d'essayer d'imiter Trace jouant.
Alors, j'explique. J'ai quand même changé 3 fois le Nunchuk pour voir si c'était pas un souci avec le Nunchuk, mais non. Et apparemment, peu de
gens ont eu ce
souci-là.
Mais tu vas trop vite, Trace.
Mais c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a un vrai souci avec justement les coups un petit peu trop brusques, un petit peu trop amples, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai eu ces soucis-là et c'est vrai que ça m'a un petit peu gâché mon plaisir.
Et c'est un jeu que tu recommandes à jouer debout parce que
ah oui, assis c'est impossible, hein, c'est même pas la peine
d'essayer.
Parce
qu'il y a vraiment des mouvements amples qui sont obligatoires.
Exactement. Et c'est plutôt physique, hein, quand tu joues 2-3 heures de suite, tu les sens bien passer quoi.
Mais c'est un vrai jeu gamer apparemment.
C'est un vrai jeu gamer effectivement. Bon, il y a pas de sang parce que voilà, c'est une démarche qu'ils ont voulu faire comme ça, mais en tout cas, ouais, non, c'est vraiment très plaisant sur Wii, un vrai jeu gamer, ça fait plaisir.
Exactement. Et allez vraiment pour conclure allez. Sur les tests, Sonic and Sega All-Stars Racing, t'as plutôt plu aussi.
Ouais, il m'a vraiment plu. Aussi bien sur Wii que sur les next gen. Évidemment, il est beaucoup plus beau sur les consoles Xbox 360 et PS3. Et vraiment, on retrouve vraiment du Mario Kart là. Mais moi, je trouve en bien plus fun et bien plus punchy.
Plus fun que Mario Kart ?
Beaucoup plus punchy, franchement, ouais. Honnêtement. En tout cas, que le dernier Mario Kart sur Wii, j'ai pas forcément énormément aimé personnellement. J'étais un petit peu déçu justement par la mollesse des caisses, etc., des personnages. Alors que là, vraiment, ils ont saisi le bon truc et il y a tout le temps des bagarres que tu joues seul ou à plusieurs. C'est vraiment bien foutu.
Oui, parce que
en ligne,
c'est
pareil,
que là,
c'est sympa.
Tu peux jouer en ligne sans te merder avec des codes amis et tout ça.
Voilà, ou sans dire bien joué, on fait une nouvelle partie avec 5 phrases et demie de auto-créées parce qu'on ne peut pas se parler.
Donc voilà, vraiment un petit coup de cœur pour moi pour ce jeu de caisse vraiment sympathique.
Ok, très bien. Alors bien évidemment, il y avait encore d'autres jeux. On aurait pu parler d'Alice au Pays des Merveilles, qui a beaucoup plu à Pia et a raison.
Version Wii et DS très différente, mais très
différente. Un jeu justement où vous n'incarnez pas Alice, mais plutôt les personnages, ces petits coéquipiers avec des pouvoirs cosmiques, vous pouvez arrêter le temps, détruire des univers, etc. C'est plutôt bien réalisé, c'est un jeu français. Et franchement, on l'attendait pas du tout et c'est plutôt une bonne surprise. Resonance of Fate du côté de Mimic, c'est un RPG japonais
tendance western aussi d'ailleurs,
ouais, dans une grande tour, enfin bon, ouais, c'est assez intéressant, assez intéressant vraiment, on a plutôt aimé. Supreme Commander 2 aussi.
Oui, sur PC, il est sorti aussi sur 360, mais on n'a pas pu y jouer sur 360 pour l'instant. Commander Conquer 4 qui a été un petit peu décevant pour Fastkill.
Et Napoléon Total War.
Oui, qui est toujours à la hauteur de la série, on va dire, qui est une très grande série de stratégie sur PC. Voilà. Un petit peu, donc ça fait quand même pas mal de sorties. Hein.
Pas mal de sorties et pas mal de bons jeux. Ouais. Globalement, la qualité qui a été plutôt haute. Allez, on enchaîne et on conclut ce podcast avec les news importantes. On va aller très vite, hein, parce que déjà, 1h18 de podcast, ça va faire plaisir à certains, moins à d'autres. Allez, la news importante, c'était la sortie de la DSi XL, c'était le 5 mars dernier, c'était donc l'arrivée de cette nouvelle DSi, nouvelle DS tout court même, la DS de trop, on avait demandé dans Versus, et ben finalement, on a été plutôt agréablement surpris.
C'est-à-dire que c'est celle d'avant.
Voilà, c'est hormis le problème du fait qu'on ne peut pas racheter, etc., sur DSiWare. Ça, c'est effectivement une vraie arnaque. Néanmoins, lorsqu'on a touché aux écrans de la DSi XL, c'est un vrai bonheur. La pixelisation est infime, donc ça ne gêne pas. Et effectivement, si on n'était pas passé par la DSi, franchement, c'est plutôt vraiment clairement celle-là qu'il faut prendre. Même si, en termes esthétiques, je ne sais pas ce que tu en penses, Anne, les couleurs sont quand même pourraves.
Non. Mais en plus, elle est un peu grosse quand même.
C'est un choix. Ils l'appellent la. Comment ils appellent ça ?
La portable de salon.
Je trouve ça génial comme terme. Ça ne veut rien dire.
C'est beau.
Mais bon, le message est passé. T'as une PSP, une PSP Go, tu nous as dit aussi. T'as une DS ?
Ouais, DS, DSi, tout.
Total équipé quoi. Tu serais pas geek.
Faut qu'on essaye un peu.
Et puis, il y a une autre news importante qui a ébranlé un petit peu la rédaction. La Suisse. Vers une interdiction totale des jeux vidéo violents, ça quand même, ça fait un peu peur parce qu'on se dit, est-ce que ça pourrait pas faire tache d'huile ?
Ça interpelle un petit peu, oui, effectivement. Moi, je vais pas rentrer dans les détails parce que tout est dans la news et ça serait un petit peu long. Mais en gros, voilà, il y a deux motions déposées par des députés suisses qui veulent l'une interdire les jeux vidéo violents aux mineurs et l'autre carrément les interdire tout court en Suisse. Ouais.
Mais même, t'as même pas le droit si t'es suisse de développer un jeu à caractère violent.
Exactement.
Tu
vas faire grand chose. Et donc c'est pas encore passé, hein. Il n'y a pas eu de loi concrète pour l'instant. Ça va peut-être arriver, on ne sait pas. Ou pas du tout. On n'en sait rien. Mais en tout cas, ça a l'air bien parti, si je puis dire, pour eux, pour ne plus avoir ce genre de titre plus 18 sur leur sol. Maintenant, est-ce que ça va faire tache d'huile dans le reste de l'Europe ? J'en sais rien. On ne sait jamais parce qu'on sait bien
c'est peu probable.
Ouais, mais on ne sait pas parce qu'en général, en Europe, on aime bien unifier un peu tous les trucs, uniformiser un peu tous les trucs. Donc,
ouais,
mais bon.
C'est pour ça que la Suisse
n'en
fait pas partie.
À la Suisse n'est c'est pas ça. Dans la CE. Enfin, le UE.
Oui, tout à fait.
Ouais, l'UE. CE, c'était il y a longtemps.
La CE, ça fait longtemps, là, quand même.
Moi, j'étais en troisième. Ou pas, je ne sais plus. Qu'est-ce que tu en penses, Anne ? Ça te fait peur un peu, ce genre de choses ?
Tu flippes ou pas ?
Parce que finalement, les jeux que tu joues sont directement ciblés par ce genre de choses.
Non, non, après, pour moi, c'est aseptisé. Il y a une société, moi, je trouve ça un peu aberrant à chaque fois. Donc,
ouais.
Je pense que si on veut vraiment... Je pense que si on s'en est sorti, et pourtant on n'était pas les mieux placés pour s'en sortir.
Et on n'a aucun problème.
Voilà. je pense que surtout, c'est une question d'éducation, c'est les parents, c'est le travail des parents. Donc, voilà. De là à faire une loi pour ça, je trouve ça un peu.
Et qu'est-ce que tu penses de continuellement ce distinguo entre le jeu vidéo et d'autres formes d'expression, d'autres médias qui peuvent eux aussi être violents ? Il y a des livres terriblement violents et des films particulièrement violents, mais qui eux
ne
sont
que les médias, hein, ça entre guillemets, ça il suffit de regarder le JT hein, pour avoir de la violence. On n'a pas besoin des jeux vidéo
la
pour
vraie.
Ça, hein, mais
non, mais c'est surtout d'assimiler en permanence
c'est
le jeu vidéo aux enfants.
Oui, mais oui, non, mais c'est ça, mais c'est vrai, c'est ça.
C'est surtout ça qui me saoule dans l'histoire.
Bah oui.
Il n'y a pas de logique.
Et puis c'est cette propension de la société à vouloir faire l'éducation des parents à la place des parents, quoi.
Mais c'est pour ça qu'Electronic Arts a vivement réagi en disant que la moyenne d'âge des joueurs. Enfin, je sais pas si c'était que pour la Suisse, c'était 28 ans, quoi. Donc,
en France, c'est 30 ans.
Voilà, donc là-bas, c'est peut-être 28, visiblement 30 ici. Voilà, c'est bon, on est adulte, vacciné.
On est déjà fou là, ça sert à rien vos conneries.
Je sais bien qu'il y a des
psychopathes
un peu partout, mais bon quand même.
Mais hier soir, au JT, sans aucun avertissement, on balançait la vidéo qui avait été filmée du bus qui s'était fait caillasser, qui est parti en flammes avec le mec qui sort en sortant par les fenêtres et tout. C'est extraordinairement violent, et c'est vrai. Et ça s'est passé à 30 km de chez nous, etc.
Ouais, ouais.
C'est quand même vachement plus choquant, je trouve, et en plus avec la nana qui crie, qui machin, que jouer à God of War où bon, c'est... des dieux qui se mettent sur la gueule, quoi.
Voilà.
Ça va, on a le droit de libérer notre violence et notre haine. Enfin, on a l'air d'être... Ça va on...
Ah putain.
Voilà, bon, autre information importante, le clash. Et ça, pour l'industrie du jeu vidéo, mine de rien, c'est notable. C'est le clash entre Activision et les big boss d'Infinity Ward, Vince Zampella et Jason West, qui ont carrément, manu militari, été éjectés un peu de leur société.
Et on sait pas exactement.
Et là, c'est la merde.
Arrêtez avec votre truc de bruitage.
Et là, c'est la merde. Bon, alors.
Et là, c'est le drame.
Bah, c'est tout, t'as à peu près tout dit. C'est-à-dire qu'effectivement, apparemment, il y a Activision les accuse d'insubordination. En fait, c'est le terme officiel utilisé dans les papiers qui ont été déposés.
En gros, ça veut dire qu'Activision leur a demandé quelque chose et ils étaient pas d'accord.
Probablement. Voilà, c'est ça, on sait pas, voilà, quels sont exactement les tenants et les aboutissants. Mais toujours est-il que les deux, donc, fondateurs historiques de Infinity Ward, qui leur ont donné tellement de millions avec Call of Duty.
2 milliards, mec.
2 milliards, ouais. Avec Call of Duty, se sont fait un petit peu éjecter, sont partis ou ont été virés, on ne sait pas trop.
Et depuis, le DLC, le premier DLC est sorti,
ouais.
Et c'est la merde parce que ça ne marche pas.
Alors, lien de cause à effet ou pas, j'ai envie de
c'est
dire.
C'est du terrorisme, de toute façon c'était des communistes, c'est pour ça qu'ils se sont fait... Bon bref, et non, je voulais juste dire un truc.
Julo.
C'est, on avait quand même un signe. On avait quand même un signe, c'est que n'oubliez pas que Modern Warfare 2 s'est appelé Modern Warfare 2 tout court, ouais. Jusqu'à je sais pas quelques semaines avant la sortie, avant de récupérer le terme Call of Duty. Ouais.
Mais voilà. Non, mais c'est qui certain qu'il y a une dissension entre le traitement que fait Activision de la licence qui lui appartient et ce que voulaient en faire les créateurs de la licence, qui ont certainement un affect particulier avec, quoi.
Et ce qu'on sait de source sûre, c'est que même pas 24 heures après avoir été éjecté, bah, sur leur téléphone, ça sonnait et au bout du fil, il y avait du Ubisoft et du Electronic Arts. Ah bah, donc bien évidemment, et puis c'est pas dit que eux partent et qu'ils ramènent pas au fur et à mesure quelques-uns de leurs potes codeurs et autres artistes et pour faire un Call of Duty like ailleurs chez un autre éditeur. Et bon, j'ai beaucoup aimé d'ailleurs la phrase de Schaeffer qui disait: parler avec Activision, c'est comme essayer de communiquer avec un singe qui vous jette de la merde.
Oui, c'est ça.
Ça vous donne un petit peu le level quand même.
Oui, c'est ça. Ça, c'est Schaeffer. C'est
voilà.
Schaeffer.
Parce que lui, il y a eu des démêlés avec Brutal Legend,
voilà,
qui était chez Activision. Et
à l'époque où Sierra existait encore, voilà, effectivement, et qui a fini chez EA. Mais donc, voilà.
Donc, c'est de quoi il parle en fait.
Ça a l'air sympa chez Activision. Ça a l'air sympa. Enfin, ils sont largement leaders aujourd'hui.
Ah bah oui. C'est peut-être pour ça que ça pose un problème d'ailleurs.
Bobby, si tu nous écoutes, fais gaffe à derrière toi. Ça chauffe. Autre information sur laquelle on passe très rapidement, le PlayStation Phone confirmé à demi-mot par Bert Nordberg, président de Sony Ericsson. Là, Anne, je suis obligé de te laisser la parole.
Ouais, bah, c'est juste confirmé à demi-mot. Donc, ils savent que.
C'est-à-dire que c'est
chose...
confirme.
Voilà.
Confirme, pardon. Oui, c'est confirme.
Non, ils savent qu'il y a quelque chose à faire avec la marque PlayStation. Donc, surtout qu'en plus, Sony est parti sur leur principe de tout unifier dans leurs games, à savoir PlayStation, Bravia, etc. Donc, du coup, c'est vraiment la suite logique. Maintenant, on va savoir si Sony Ericsson va rejoindre PlayStation ou l'inverse, ça c'est la grande question. Surtout que Sony Ericsson est parti sur leur gros trip Android, donc anti-iPhone, etc.
Mais peut-être que justement, ce qui était évoqué, c'est qu'il y ait des jeux, par exemple, de la première génération de PlayStation, la PS1, qui puissent être en téléchargement sur justement un téléphone qui sortirait et qui aurait des applications PlayStation à l'intérieur. Enfin bon.
Ça, on sait ce qui se passe, hein, ça.
Mystère et boule de gomme. Ce qui est beaucoup plus sûr, c'est que le 17 juin aux États-Unis, ce sera la fin de l'E3, mais aussi la sortie d'Unlive, qui sortira donc à cette date-là pour 15 € d'abonnement mensuel, 15 $, excusez-moi, $15 d'abonnement mensuel. Ça a été dévoilé lors de la GDC 2010, il y a quelques semaines maintenant. Et la petite surprise, c'est que la fameuse micro-console, celle qu'on mettait sous sa télé, eh ben, ne sera pas au lancement, et que pour l'instant, il faudra se contenter de jouer sur PC ou Mac.
Ouais.
C'est mais ça. En gros, ça veut dire ça y est, ça arrive.
C'est un secret, c'est ça.
Ce que je voulais dire, c'est que c'est dans 2-3 mois, quoi.
Voilà, on va commencer enfin à savoir un petit peu vraiment si ça marche bien pour nos amis américains, en tout cas qui ont des connexions de merde, faut le savoir quand même. Donc, si ça marche bien pour eux, ça marchera très bien en Europe quand ça s'implantera là et on saura ça.
Ça dépend parce qu'il faudra foutre vachement plus de petits, qu'on appelle ça des relais, quoi. Comment on dit.
C'est 1000.
Des serveurs, voilà.
C'est des. Ouais.
Il faut qu'il y en ait quand même tous les je sais pas combien de kilomètres.
Il y en a 3 ou 4, je crois, aux États-Unis. Je sais plus. C'est 1600 km, 1000 miles, ouais. C'est 1600 km maximum d'un centre de relais pour pouvoir l'utiliser.
Donc la France, officiellement. Tout à Paris. Parce que comme d'hab, centralisation, nous, on est peinards. Et puis, même à Marseille, 1000 km plus loin, et tout va bien. Donc c'est que ça devrait bien
fonctionner. C'est même pas 1000 km d'ailleurs, c'est 800 non,
Marseille, ouais, c'est un petit peu moins loin. Ouais.
Non mais enfin, on verra. De toute façon,
t'as entendu ce Roland de Belgique là.
N'importe quoi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Hein. Donc on verra effectivement l'implantation en Europe, mais c'est d'abord les États-Unis. On verra vraiment si ça marche bien parce qu'il y avait des bêta-testeurs qui se plaignaient jusqu'à présent. Donc on verra ça.
Allez, d'autres informations. Sega qui souhaite un Bayonetta 2. Franchement, peu d'informations pour l'instant. Mmh. On sait que le jeu en France a vraiment fait un flop, malheureusement. Ça me déçoit, ouais. Parce que moi j'ai surkiffé ta
Moi j'ai adoré, moi. J'aime beaucoup l'humour du jeu, j'ai beaucoup aimé la réalisation. Bon, c'est...
Et tu trouves pas que c'est parmi les jeux qui en donnent le plus qu'on avait vu depuis des années?
Si, si, c'est,
ça n'arrête pas.
C'est tout frais, quoi. Moi j'aime bien. C'est... Bref.
Bon,
c'est
ça a fait un flop colossal, retentissant, mais néanmoins dans le monde, il s'en est pas trop mal tiré, et du coup, ces gars ont envie de.
Puis on sait comment ça marche, c'est toujours. Il faut qu'une marque s'installe, une nouvelle licence, et machin, et blablabla. Donc,
croisons les doigts, Bayonetta, le retour, peut-être dans quelques années. L'après-Braid, on l'attendait, hein, monsieur Blo, à savoir ce qu'il allait faire après, a priori, ça se concrétise, ça s'appelle The Witness.
Oui, c'est. Alors, pour résumer, on va dire que c'est une sorte de Myst. J'ai l'impression, en tous les cas, ça se passera sur une île. Ça sera toujours un puzzle game avec certainement des choses assez intelligentes à déjouer. Ce sera pour cette fois en 3D avec un moteur qui vise à intégrer un système d'éclairage global, etc. Donc je sais pas vraiment par où il va partir, mais en tous les cas, ça sera un projet en 3D. Il est plus tout seul. Il a embauché quelques personnes. Il a créé une espèce de mini studio pour développer ça. Et il y a évidemment pas de date de sortie. Ce sera probablement aussi en téléchargement sur les services comme le Xbox Live et compagnie. Et les premiers screenshots sont déjà évidemment en ligne. C'est pas des screenshots de la version finale, mais de leurs études de moteur. Mais ça peut donner un indice de l'ambiance. Il y a aussi
c'est
des
très épuré, ouais. En tout cas pour l'instant. Le premier jeu, Bang & Olufsen. Anne, la fin de Linux sur PS3, que se passe-t-il?
Bah on sait pas. En gros, il y a eu une mise à jour là cette semaine, il me semble en 3.21, donc qui enlève la possibilité.
Mais pourquoi?
Bah tout simplement parce que elle s'est enfin piratée entre guillemets.
Ah ça c'est sûr, donc, parce que effectivement c'est l'une des machines qui a résisté quand même le plus longtemps.
Le plus
et
longtemps,
là,
mais
il y a eu des
voilà, c'est en train de tomber. Et puis et c'est Linux qui permet de le faire.
Ça se trouve c'est une histoire de chip d'horloge interne ou un truc.
Ça se trouve, ouais. Mais ça se trouve elle est craquable que tous les 4 ans, on sait pas
c'est
encore.
C'est ça. Pendant 24 heures.
On verra.
C'est fini.
Dans tous les cas, Sony ferme la porte tout simplement pour éviter.
Mais ils avaient déjà fermé la porte sur la PS3 Slim, qui n'était.
Oui, déjà sur la PS3 Slim, mais là
sur
du
PS3
coup,
Slim, tu pouvais pas avoir dans.
La fat, elle y est passée aussi, quoi.
Mais très honnêtement, alors là, vraiment, t'as un béotien en face de toi à ce niveau-là. Ça servait à quoi d'avoir Linux sur PS3?
quand tu utilises.
Il fait beau
Linux,
aujourd'hui. Hein.
Déjà, de toute façon, ceux qui veulent Linux sur PS3, ils sont pas forcément obligés de mettre à jour leur PS3 s'ils veulent continuer à utiliser Linux sur leur PS3. Et puis, de toute façon, s'ils ont Linux sur PS3, c'est pas pour jouer avec. Ou alors pas trop, quoi.
Mais ça sert à quoi?
Avoir un serveur Linux chez toi, par exemple, pour faire des tas de choses.
Mais surtout, c'est un combat contre Microsoft, quoi, c'est tout. C'est juste pour la gloire.
N'importe quoi.
Bah attends, tu plaisantes ou quoi? Les mecs qui font ça, ils sont contents.
Mais non, mais,
c'est non, mais surtout, t'as des machines maintenant qui vaut que dalle et qui font tourner très très bien Linux en serveur. On prend typiquement tout ce qui est, je sais pas, Acer, Revo, vous savez, tout ce qui est à base d'Atom là. Mm-hmm. Ça tourne nickel. Donc non, moi j'ai jamais compris, mais bon après.
Bon,
why not?
Sony a atomisé Linux sur PS3 en tout cas, ça c'est une certitude. La bêta de StarCraft 2, alors ça a commencé il y a pas mal de semaines, mais toi tu as pu, Anne, y jouer au mois de mars.
Se faire pulvériser par là. Y jouer, c'est un grand mot, mais se faire pulvériser, ouais, par tous les sens, ça je sais très bien faire. Et voilà, en fait, c'est l'inconvénient de StarCraft 2 actuellement dans la bêta. C'est pas tant le moteur ou quoi que ce soit, c'est surtout le fait que en face, il y a que des cracks de StarCraft. Donc tu te fais
qui sont évidemment les premiers invités par Blizzard
forcément pour tester le moteur jusqu'au bout. Et alors là, tu te fais atomiser tout le temps.
Mais justement, t'en connais un l'âme. Qu'est-ce qu'il en pense, lui, de cette bêta de StarCraft 2?
Lui, il veut toujours y jouer pour 10 minutes. Hein. Il t'atomise en 10 minutes.
Mais en fait, ce que
continue,
tu sais pas,
quoi.
C'est qu'il joue juste contre toi, juste pour
foutre. Non, il fait partie de ceux qui savent jouer très bien à StarCraft.
Et ça s'annonce bien. Il est plutôt content.
Ouais, il est bien content. Et en plus, les patchs se suivent. Là, on doit être 7e patch déjà sur la version bêta.
Oui, ça rigole
donc,
pas.
Donc Blizzard est super réactif et on risque d'avoir un grand jeu de RTS.
D'accord. Et est-ce qu'on le retrouvera sur Steam et sur Mac?
Sur
ça
Mac,
y est,
oui.
Ça
sur
arrive
Mac, oui.
Au mois d'avril.
Sur Mac, oui, tout simplement parce que Blizzard a toujours eu la politique de développer pour Mac et pour PC. Donc on prend World of Warcraft, il y a un client Mac, un client PC, Diablo, même chose, etc. Donc là, on est sûr d'avoir un StarCraft 2
sur Mac. Et quant à Steam, bah, c'est la grande nouvelle de ce mois, puisque Steam arrive enfin, c'est plutôt Valve en fait, arrive sur Mac, donc avec Portal 2, Left 4 Dead 2 qui est sorti il y a quelques mois, et tous les jeux Valve. Donc maintenant, faut attendre maintenant si les autres éditeurs vont suivre.
C'est plutôt une bonne nouvelle quand même pour les utilisateurs de Mac. C'est bien, parce qu'en plus, c'est des jeux de qualité. Ouais.
Il y a de fortes chances que
va être adapté aussi sur Mac, c'est bien.
Il y a de fortes chances qu'il y ait une grosse partie du catalogue EA qui fasse la transition aussi, puisqu'ils ont développé des jeux qui marchent sur Mac aussi.
Ils sont très proches d'Apple avec l'iPhone et l'iPad.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Quand ils développent sur Mac, c'est surtout pour l'iPad qu'ils pensent ou pas?
Non.
Bah, disons que je pense que l'iPhone et l'iPad ont fait que les éditeurs s'intéressent à la plateforme Apple. C'est-à-dire que Apple, avant, c'était juste le Mac, donc bon. Développé pour 5%, on s'en fout. Voilà. Maintenant, c'est développer leur image de marque en même temps. Donc, tout est lié, oui, je pense.
Très bien. Autre information, un anniversaire, la PlayStation 2 qui a fêté ses 10 ans quand même. La PlayStation 2, c'est pas n'importe qui, hein, c'est la record woman, si on peut parler comme ça, des machines de salon les plus vendues au monde. 140 millions d'exemplaires. C'est quand même assez respectable. Hein,
ouais, de toute façon.
Elle était sortie au Japon le 4 mars 2000. Et pour les amateurs de chiffres, eh ben regardez, 2000, c'est le chiffre 2. Mars, le chiffre 3. Et 4, le chiffre 4. 2, 3, 4. Sony adore toujours faire ce genre de petites choses. C'est pour avoir des petits détails mémotechniques pour vous en souvenir et briller en société. Vous verrez, ça marche bien. Ça fait toujours son petit effet. Autre information d'information. Lara Croft, le retour de Lara avec un jeu assez particulier, Lara Croft and the Guardian of Light, qui a été annoncé, mais attention, il ne s'agira pas du nouveau Tomb Raider. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas le mot Tomb Raider dans le titre. Traz, quoi s'agit-il?
C'est Lara Croft qui s'amuse dans des niveaux en 3D isométrique un peu spéciaux. Et donc, ce sera sur Xbox Live et PSN. Donc, on ne sait pas encore combien ça sera vendu, mais a priori, ça devrait être quand même un petit jeu, quoi. Ça sera pas la grande aventure comme on l'a connue avec effectivement la saga des Tomb Raider, etc.
Et ce sera du coopératif, puisqu'il y aura un guerrier Maya qui accompagnera toujours Lara. On va voir.
Et on espère que ça sera plutôt bien fait, parce que que les premières photos qu'on a vues, ça a l'air plutôt sympa, quoi. Donc à voir. Mais il faut pas s'attendre encore une fois à un truc révolutionnaire, quoi.
Je ne pense pas, mais ça peut être sympathique.
Je me demande quelle taille de bonnet ils auront pris cette fois-ci.
Elle a l'air plus féminine, mais c'est bien. Tout manière, elle est en train de perdre de la poitrine. Je sais pas.
Des fois ça monte, des fois ça redescend. Alors on ne sait pas trop.
On verra bien. Anne, tu es notre invitée d'exception aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot pour conclure ce podcast avec la classe qui est la tienne, une news que nous aurions peut-être oubliée dans ce magma d'informations? Je sais que tu voulais parler.
Libérer votre
libérer de la haine. De l'iPhone qui était en train d'exploser.
Voilà, ouais, donc. Justement, ça concernait le marché des jeux portables. Effectivement, il y a quelques années, on considérait juste la DS et la PSP. Et c'est vrai que depuis une bonne année, voire deux ans même, Apple se paye une grosse part sur ce marché-là.
Est-ce que, en parlant de téléphone, t'as vu? Ça sonne, c'est très bien. Tu joues toi sur iPhone ou pas?
Je joue. Mais c'est vrai que tous les jeux auxquels je joue sur iPhone, c'est juste, on va dire... Mais il y a eu des stats en plus qui disaient que tous les jeux sur mobile, d'ailleurs, ne dépassaient pas le mois de durée de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on joue... Il y a une tonne de jeux où tu dois jouer peut-être 10 fois, et après t'arrêtes, et puis tu passes à autre chose. Hein. Et là, c'est vrai qu'il y en a un paquet. Mais c'est un marché à développer, et puis on voit quand même des licences arriver... Mirror's Edge par exemple qui est vraiment pas mal, qui a l'air bien sympa, et toutes les licences qui arrivent petit à petit, donc
il y a eu Metal Gear, Mirror's Edge,
qui a été développé
Crash
tout de suite, qui a été
Street Fighter 4
qui est injouable,
je te jure. Non, il faut s'habituer un peu, mais il n'est pas un jouable.
J'ai essayé de brancher ma Mad 4, elle veut pas.
Non, mais sans déconner, c'est assez rigolo.
Oui.
C'est pas, tu vas pas faire des trucs de ouf non plus, mais il est vraiment bien adapté. En tout cas, moi, j'ai jamais vu de jeu iPhone avec un stick virtuel qui fonctionne aussi.
Mais oui. Aussi le jeu de foot, non, un des premiers.
Je joue pas au jeu de foot, moi.
Ouais, c'est les sticks virtuels précisément qui m'empêchent de considérer l'iPhone comme une vraie plateforme de jeu, parce que juste. Il y a tellement de jeux auxquels tu peux pas jouer, et notamment Street Fighter, pour moi c'est pas jouable, quoi.
Bah essaye un peu plus longtemps,
mais après les jeux ne se limitent pas qu'aux jeux d'arcade, ça. Il y a tout
ce qui va être vraiment spécifique à l'accéléromètre, etc.
Super Monkey Ball, il marche très bien sur iPhone.
Katamari Damacy,
mais Julo et moi on joue au solitaire surtout, vachement.
Ouais, moi je joue au solitaire,
je fais 1 minute 30
au Mahjong aussi.
Imagine et au poker.
Et bah, c'est sur ces bonnes paroles et cet hommage déguisé à Poufy que va s'achever ce podcast 137. Encore un grand merci, Yann.
À 1 minute 37.
Ah bah écoute, c'est un signe. Hein. En tout cas, on le rappelle, hein, tu es le big boss, le créateur du journal du geek et du journal du gamer, où on peut te retrouver au quotidien.
Exactement.
Avec moult news sur le high tech et aussi sur le jeu vidéo. Donc merci beaucoup de ta venue.
J'espère que merci à vous.
T'as passé un pas trop mauvais moment.
Non, j'ai passé un super moment.
Donc, si, si, si. Je vous assure. Laissez-moi sortir.
Merci à tout le monde. Merci à Tiger, à Julo, à Traz, à Raon et à Poufy et à Mr. P. Tout le monde a participé aujourd'hui. C'est complètement dingue. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, bien évidemment. On risque de parler d'une grande saga, d'une grande série, d'un jeu qui risque de faire l'événement dans les jours à venir. Donc, restez connectés à Gameblog.fr. Maintenant, vous pouvez commenter, réagir et faire des trucs encore plus super sur les nouveaux forums de Gameblog.fr et nous suivre sur Gameball Mobile. Et oui, sur iPhone et autres téléphones 3G ou Wi-Fi. Allez, je m'arrête là.
Ouais.
C'est bon.
Ouais. T'as dit Game Boy.
Ouais, on va fermer. Ciao, à la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout jouez bien. Ciao.
Ciao. Ciao.